Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de pli, qui vous parle de jeux de société. Je suis Flavien pour une première dans les Jeux du Mois cette saison et pour m'accompagner dans cette émission, je suis accompagné de Cyrus, on fait l'ancien président et le nouveau incroyable. Salut Cyrus, comment tu vas?
Salut Flavien, ça va.
C'est l'émission de la passation un peu.
Ouais, on va dire ça, ouais.
Et pour cette émission, en plus, je suis devenu président et du coup, qu'est-ce que j'ai imposé presque à partir de ce mois, c'est que tous les Jeux du Mois, il y aura des Jeux de pli. Voilà, vous allez le voir,
incroyable.
Parce que c'est vraiment une émission à la thématique jeu de pli. Hein.
Mon Dieu, que tu es machiavélique.
Je tolère les jeux de défaut, c'est l'escalade. Mais je les tolère juste.
Si j'avais su, je me serais jamais retiré.
Ouais. Écoute, je te promets qu'on fera pas... S'il y a des roll and ride de pli, ça existe sûrement. Je suis à peu près sûr que ça existe.
Ouais, je sais pas, on va chercher.
Ouais. Bah toi aussi, première émission des Jeux du Mois, du coup, pour cette saison également.
Pour cette saison, ouais, tout à fait.
Et donc, on va parler de jeux de pli. Moi, je vais vous parler de Potage Sauvage, un jeu de pli de Rainer Knizia de 2002, mais qui est ressorti cette année.
Oh là là, mais c'est tout, ça fait... Ça aussi, tu enfreins une règle. Et donc, tu te permets beaucoup de choses en tant que président, quand même, je trouve.
Mais toi, tu vas nous parler d'un jeu de 2022 aussi. Ça date un peu. Et en plus, t'en as déjà parlé et tout à Essen, presque comme si c'était un jeu du mois.
Mais c'est un jeu qui vient de sortir, monsieur, en France. Et c'est ça le vrai critère qui nous rassemble normalement dans cette émission.
Ah, j'avais pas compris, hein, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais, donc toi, tu nous parleras de Cat in the Box.
De Cat in the Box, effectivement. Ouais.
Du chat dans la boîte et de Schrödinger. Mais avant ça, on va remercier nos donatrices et donateurs qui nous aident à réaliser ce podcast. Je te laisse les citer.
Ah ben merci. Nous remercions donc 4-3, Dr. Che, Deck Moon, Franck, El Piero 50, Bobby Fada, B1, Jimmy Celtics 95, Gaume, Sam Chakit, Gerny Lolo, Frédéric Moulis, Collignan, Laurent 36 et Nox.
Jimmy Celtics 95, si tu écoutes cette émission, faut que tu enlèves ce 95 et que tu mettes 68 maintenant. Parce qu'il a déménagé.
Ah oui, c'est vrai.
Et il a changé sur Discord et tout, mais pas là-dessus. Et voilà, tu sèmes le doute, ou bien c'est pas le même, et c'est un autre Jimmy Celtics 95, c'est incroyable.
Tu sais, il t'a toujours fait croire qu'il était donateur, en fait, c'est pas vrai, c'est pas lui.
C'est pas lui, oh là, imagine ça. Pourtant, il est venu au week-end proxy, il nous a eu jusqu'au bout. Vraiment la grosse arnaque. Merci aussi donc à la Caverne du Gobelin, qui est notre partenaire depuis maintenant quelques années. La Caverne du Gobelin, ce sont 4 boutiques qui sont à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, et qui ont toutes leurs cafés-jeux. C'est aussi une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.com et c'est notamment, vous l'avez entendu dans les chroniques la dernière fois, mais co-organisateur des jeux du Stan.
C'est l'organisateur des jeux du Stan.
Qui ont eu lieu ou qui ont tout juste lieu, je crois qu'ils ont eu lieu.
Qui vont avoir lieu, si vous écoutez cette émission au moment où elle paraît.
Demain
Non, la semaine prochaine.
La semaine prochaine, bah voilà. Mais du coup, ça vous laisse un peu plus de temps pour aller. C'est dans quel coin encore? C'est vers chez...
C'est à Nancy, les jeux du Stan.
C'est à Nancy, ouais.
C'est le week-end des 11 et 12 novembre.
Ah bah oui,
novembre.
Le Stan. Oui, à la place Stanislas, c'est là-bas.
Exactement.
Avant de se lancer, comme d'habitude, les commentaires de l'émission précédente, où on espère qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y avait le Pionfesseur qui parlait de Dice Throne Adventures et Astien de l'Orcana, mais je crois que le Pionfesseur n'apparaîtra plus dans les jeux du mois. Parce qu'il va être déçu.
Non, c'est terminé. Le Pionfesseur d'émission, il a reçu 0 commentaire concernant Dice Throne Adventures.
Parce qu'il était exhaustif dessus, sûrement.
Oui, voilà, bah, ça va être ça, exactement. Il y a eu quelques commentaires concernant l'Orcana. On a eu un commentaire de Julien N avec une réponse de Chips et un autre commentaire de Delotte qui reviennent plutôt sur l'aspect économique autour du jeu l'Orcana, hein, sur lequel Astien était pas mal, enfin c'était pas mal arrêté pendant l'émission. Il y a de la théorie du complot un peu dans tout ça, je sais pas. Bah, après en vrai on saura jamais, hein, l'histoire des ruptures sur le jeu, effectivement, sur l'Orcana, avec un retirage prévu quand même du chapitre 1, je crois, en janvier ou février, par là.
Ouais, normalement, qui devrait même arriver un peu en avance, je crois, si je me rappelle bien.
Ouais, bon. En tout cas, Astien avait été assez exhaustif sur le sujet, je trouve, puis retransmettre les explications de Ravensburger sur le sujet. Maintenant, vous y croyez ou n'y croyez pas, c'est un peu... voilà, c'est à vous de voir, quoi.
Ouais, sachant que là, il y a eu les précommandes pour la saison 2, et évidemment, c'est vraiment...
C'est déjà en rupture à beaucoup d'endroits, je crois.
En rupture, et évidemment, c'est un truc qui cristallise beaucoup d'attention et beaucoup d'excitation, et du coup, ben, il y a les gens du passe-temps qui, ça doit pas être les seuls, mais qui ont dit que comme en fait leur site était en carafe parce que trop de monde en fait, même en prévoyant en amont, hein, donc en augmentant sûrement un peu les trucs de charge de serveur et tout, ben en fait
je sais pas pour le coup s'ils avaient, enfin ils ont pas parlé d'avoir anticipé, je pense qu'ils avaient pas anticipé et juste le machin il s'est mis en carafe quoi.
Ouais, et du coup en fait ils ont reçu plein d'insultes, de menaces de mort et compagnie. C'est, on vous aime les joueurs, hein, vous êtes vraiment des gens bienveillants et on aime que vous soyez.
Ah, ils ont peut-être reçu des menaces de mort quand même.
Si je crois que Simon a dit que ça m'étonne pas, hein, parce que c'est vraiment des gens qui lâchent des trucs
Ouais, je sais pas. Moi, j'espère pas, quand même.
Ouais, c'est fou. Et on a joué ensemble à l'Orcana. Toi, je sais que tu joues un petit peu plus que moi, d'ailleurs, ces derniers temps.
Ouais, j'y joue de temps en temps avec mon fils, ouais. Mm. Il aime bien. Bah, je l'avais acheté pour essayer avec lui, hein, effectivement. Et il a plutôt accroché. Après, effectivement, la partie de deck building, c'est un peu compliqué, quoi.
C'est
difficile de trouver des boosters. Donc, on joue avec les decks de départ. On en a chacun, enfin pas chacun, on en a deux en fait, hein, et on joue, on alterne. Je sais qu'il a, ça lui a fait plaisir, il a pu améliorer un deck, enfin améliorer, je sais pas s'il l'a amélioré, hein, mais
en tout cas,
il a pu modifier, il a pu personnaliser un deck avec quelques cartes, et puis on verra plus tard si on continue ou pas, je sais pas.
Et il y avait quand même un point, toi, qui a pas été soulevé dans l'émission, mais sur le système de mana. Alors ça a été comparé à Hearthstone, moi je trouve, enfin c'était Pionf qui n'y avait pas joué, qui parlait de Hearthstone, je trouve que pas forcément les meilleures comparaisons, parce que Hearthstone ou Marvel Snap, t'as un mana, puis deux mana, etc. Donc ça automatise le mana. Là où l'Orcana, c'est quand même un peu différent, mais c'est pas non plus un système original. Et toi, t'as la référence sur qui ils ont piqué sûrement.
mais je crois que Professeur a parlé d'un autre jeu, je me rappelle plus comme ça, mais il a parlé d'un autre jeu qui utilise ce système, hein, qui était avant effectivement Indomptable, qui est un jeu relativement obscur,
hein. Inaperçu un peu.
Comment ça s'appelle en anglais, parce que je crois qu'il y a eu une campagne.
C'est Untamed, Untamed Feral Factions.
Ok. Et c'est un jeu, pour le coup, c'est un jeu plutôt, qui se place plutôt jeu de société, avec des paquets de cartes, avec des espèces de factions, si on peut dire. Et on va choisir différentes factions, je crois qu'on en mélange deux ou trois. Et puis, ça fait notre deck, en fait. Ouais. Voilà, donc c'est des espèces de factions qui sont préconstruites.
Et il y a le même système
qu'ils avaient prévu de faire des extensions, je sais pas trop si...
De sacrifice des cartes, en fait, pour se créer... pour alimenter l'économie, ce qui est, moi, je trouve, un des meilleurs trucs de leur canal, au-delà de l'aspect course, qui est pas inintéressant. Mais voilà, donc allez voir un nom de table, peut-être. C'est vrai que c'est passé un peu inaperçu. Bon, on y va, t'es prêt, t'as tes cartes, t'as parié sur le nombre de minutes qu'on va tenir.
Ouais.
Allons-y, je vais commencer moi avec Potage Sauvage. Alors, Potage Sauvage, un jeu d'un petit inconnu, hein, un petit Allemand qui commence comme ça, on le dit à chaque fois qu'on parle de ces jeux, c'est évidemment Rainer Knizia, le bon vieux docteur. C'est du côté des illustrations, c'est Jérémy Fleury qu'on a vu, je crois que c'est lui qui avait fait Fertility par exemple chez Catch Up, enfin il a fait pas mal de choses. C'est édité en français, hein, par Yellow, et ça a été on va revenir dessus, mais il y a pas vraiment de, c'est eux qui les distribuent aussi aux États-Unis, etc. C'est vraiment la version de Yellow qui est internationale. C'est de 2 à 5 joueurs ou joueuses, c'est à partir de 8 ans, et je pense que ça doit être à peu près ça. C'est annoncé pour 30 minutes pour le coup, moi je dirais plutôt 45, surtout si on est 4-5. Donc un peu plus long, je pense, que les 30 minutes quand même. C'est 15,90€ chez La Caverne du Gobelin, vous trouvez les liens sur le billet du site. C'est fabriqué en Chine, on reviendra dessus parce que c'est un peu abusé. Et niveau règles, pas d'inclusivité, alors c'est rigolo, c'est pas rigolo, mais Yellow parfois, moi je trouve ça insuffisant, mais des fois, tu sais, ils mettent le petit mot de dire « Dans ce livret, on utilisera tout le temps joueur, mais il va de soi que c'est pour dire joueur et joueuse », tu sais, ils le faisaient déjà même il y a quelques années, je crois que c'est dans Minodice où il y a ça. Alors je sais pas pourquoi dans certains c'est le cas et pas dans d'autres, mais c'est pas
ça doit dépendre du chef de projet.
Ça doit dépendre si c'est un jeu de Fade Duty ou pas. Non, là c'est Knizia en l'occurrence. On reparlera, mais évidemment les gauchers et les gauchères c'est bon. Ils ont pensé à vous et à nous. Moi je suis pas gaucher ni gauchère, mais je tiens mes cartes comme telles. Pour les daltoniens et daltoniennes, pareil, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couleurs, mais il y a aussi le symbole de ces couleurs aux quatre coins, donc ça c'est cool. J'en avais un petit peu parlé lors du débrief de PEL 2023, donc début juillet, où c'était un jeu qui m'avait enthousiasmé. Alors, pour le contexte, et plutôt pour les contextes, en fait, je l'ai dit, c'est un jeu de 2002, je l'ai dit en intro, qui s'appelait Too Many Cooks, donc on était déjà dans la thématique culinaire, hein, qui, par ailleurs, c'est pas la première fois qu'il sort en version française, il était sorti en 2005, sous le nom Chaud Devant, que Pionfesseur, alors pour l'anecdote, on a joué ensemble en début de semaine à Potage Sauvage, le lundi, et mardi, Pionfesseur nous a dit « Ah, mais je vais ramener ma boîte de Chaud Devant !» C'est Chaud Devant, c'est le même jeu, mais j'avais pas capté. Et effectivement, c'était University Games.
Elle est magnifique.
Ouais, c'est un autre style. Mais du coup, il y a déjà eu une VF, peut-être que vous l'avez, ou vous la trouverez en brocante moins chère, je sais pas. Donc ça, c'est vraiment, voilà, jeu de 2002. C'est pas le premier vieux jeu qu'on voit ressortir cette année, et que moi, je trouve bien. Et donc, en 2002, on se pose où ? Pour parler un peu du contexte de 2002, il faut savoir que le jeu de pli, c'est un style qui est alors très présent en Europe occidentale, en France aussi, mais aussi en Allemagne, à la fois par des jeux traditionnels, mais dans les années 80-90, c'est une période d'or du jeu de pli en Allemagne. On parle aujourd'hui souvent de trick-taking renaissance, c'était déjà un peu le cas. En tout cas, c'était la modernisation du jeu de pli, disons, parce que il y avait plein de jeux, et notamment des auteurs, des autrices qui sont vraiment connus et qui ont travaillé là-dedans. Il y avait Rosenberg, avec Bargain Hunter, que j'ai pas essayé, mais que t'as eu la joie d'essayer toi. C'était les débuts de Rosenberg, donc voilà.
Ouais, c'est dans ses premiers jeux, donc on est loin des Agricola et des séries ensuite autour de Patchwork.
Il y a Doris Mataos et Frank Nestel qui ont fait Mu, cette boîte où il y avait plein de jeux dedans. Il y a Stéphane Dora qui a fait le bien connu Niette. Il y a eu Stitchel, il y a eu Karl-Heinz Schmil, le gars de Die Macher et de Saint-Pétersbourg, qui a fait Vasticht. Friedman Friese, qui lui aussi faisait ses débuts avec Fopen. Il y a eu Bottle Imp, qui devrait sortir chez Matago l'année prochaine, normalement. Hein. Petite info. Et donc, Rainer Knizia, lui, il habite en Allemagne, et il était déjà game designer à l'époque. On peut aussi citer, évidemment, Alex Randolph, hein, mais qui n'est pas allemand, donc en fait, ça n'a rien à faire là. et Knizia, donc, ouais, lui... alors, c'est pas tellement les jeux de pli, mais disons qu'il avait déjà fait plein de jeux de cartes. Alors, évidemment, on pense aux Cités Perdues. Zéro en 98, Zéro qui est pas un jeu de pli, il a fait Loco qui s'appelle aussi Wildlife Safari, qui s'appelle aussi Botswana selon les éditions en 94, qui j'ai toujours pas essayé mais j'en entends que du bien.
Je connais pas non plus.
Circus Flocati aussi en 98, qui est plus un jeu de stop ou encore et de collection, mais vraiment dans le petit jeu de cartes. Donc voilà, côté jeu de pli, le seul que j'ai trouvé, alors vous me dites dans les commentaires, il y en a peut-être d'autres, hein, j'ai pas non plus, enfin c'est Knizien, donc j'ai pas fait tous les jeux de pli, j'ai regardé un peu les plus notés, avec le plus de notes sur BGG, et il y avait Relationship Tightrope, qui a été réédité plus récemment sous Zen Master en 99, mais donc ouais, il se situe clairement dans une espèce de renouveau du jeu de pli ou de modernisation du jeu de pli en Allemagne à cette époque-là, sans lui être un mec qui a vraiment développé 26 milliards de jeux de pli, hein, comme ça peut être le cas pour certains auteurs. Et donc, le contexte maintenant de 2023, on parle de trick-taking renaissance beaucoup, depuis une dizaine d'années, mais surtout depuis The Crew, hein, clairement. Mais depuis 10 ans, il y avait déjà beaucoup de jeux au Japon. Alors, lui, pour le coup, qui fait énormément de jeux de pli, c'était Eiki Shinzawa, qui a fait Nine Lives, Ghosts of Christmas, American Bookshop, plein de choses. Maskman, qu'on connaît peut-être plus parce que c'était chez Ungame. Les gens à Essen, là, ils s'étonnaient sur Nokosuga, ils se disaient « Oh là là, mais comment ça se fait que ce jeu dont on n'a jamais entendu parler, il y a tellement de monde qui l'attendent, alors que dans la IBGG, il était déjà assez haut. » Et si on s'intéresse en fait un peu à l'international, à ce qui sort et à ce qui fait buzzer, Nokosudai, c'est un jeu très recherché, sa ressortie était une exception, c'était difficile à trouver, donc c'est pas très surprenant.
Ah, parce qu'en réalité, il a déjà quelques années le jeu. Hein.
Ouais, il est de 2016, ouais, en fait.
Ouais.
Mais effectivement, il était très difficile à trouver. Il y a Cat in the Box qui a énormément fait parler l'an dernier.
Il l'est toujours, du coup, Nokosudai.
Oui, mais il devrait... Alors, petite info, normalement, je crois qu'au Japon, il devrait ressortir cet hiver. Donc, pour l'import, voilà. Et puis, avec le buzz qu'il a fait, alors, il faut différencier le buzz sur salon et la possibilité commerciale, mais peut-être que ça arrivera de manière plus simple. Donc, le Japon, beaucoup. Aux États-Unis aussi un peu, mais du côté de l'Allemagne, il y en a aussi. Il y a Potato Man, qui est de Gunther Burkhardt et de Wolfgang Lehmann. Gunther Burkhardt, je sais pas si tu vois qui c'est le mec qui a fait Ulm un peu plus tard.
Ouais, de nom, mais je suis pas sûr d'avoir déjà joué à beaucoup de ces jeux.
Potato Man, qui est quand même assez important, puisque c'est du must not follow, donc on n'a pas le droit de suivre à la couleur, donc c'est un jeu vraiment, c'est pas le premier à l'avoir fait, mais c'est quand même assez marquant dans ce genre-là. Il y a Ebus, qui est devenu Hunt l'année dernière de Klaus Geiss, et donc, je l'ai cité, mais The Crew, hein, de Thomas Singh, qui vraiment, en fait, au niveau du grand public, il a eu le Kenner Spiel, oui, hein, en tout cas, il a été nommé pour. Ça a eu beaucoup de reconnaissance, en tout cas dans le milieu, et ça a touché plein de monde qui n'était pas touché par les jeux de Shinzawa et compagnie, quoi, hein, qui importent pas des jeux du Japon. Du côté de Yellow, on voit que quand même, du côté du jeu de pli, ils sont assez actifs dans, dans l'édition, ou en tout cas dans la localisation. C'est eux qui ont fait The Crew. Ils ont fait Inside Job cette année. Mino Dice, qui est donc Skull King avec des dés. L'année dernière, il y a eu Prophecy. Ouais, et bah, si on remonte à il y a une dizaine d'années, il y avait Le Roi des Nains de Fate Guy ou Hugo.
Ce que j'allais dire, ils avaient déjà Le Roi des Nains à l'époque, qui était un de, une de leurs locaux même. Hein.
Et Hugo, ouais, que tu dois me faire découvrir depuis...
Oui, c'est on a encore zappé.
Ouais, je l'ai vu sur ton étagère et tout, mais je me suis dit, ouais.
C'est absolument une deux. Tu me l'as pas dit. Ah, bravo, voilà.
Ouais. Donc voilà, ça c'est le contexte un peu pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas si étonnant que ressorte un jeu de 2002 du côté de chez Yellow, que ce soit Yellow qui s'en occupe et que ce soit un jeu de pli de Knizia. Voilà, ouais, on est en plein là-dedans.
Ils ont même créé une gamme là récemment,
ouais,
dans laquelle ils ont remis du coup The Crew et ils ont repackagé.
Ouais, ouais. Et attendez-vous, alors c'est toujours difficile à voir si ça va être une mode comme un peu les Roll and Write, qui va peut-être un peu s'essouffler, où on va vite en faire le tour, ou si ça va être un truc qui va s'installer. Pour suivre un peu à l'international, moi, depuis quelques années, c'est zinzin, c'est-à-dire que si on suit les Kickstarter et tout, ça fait énormément de succès. Ça infuse dans plein d'autres jeux un peu plus grand public et dans d'autres genres, donc à voir le futur du jeu de pli, mais attendez-vous à en voir régulièrement un peu partout. Donc, maintenant qu'on a un peu posé le contexte du genre de jeu, Potage sauvage, qu'est-ce
c'est
que c'est?
C'est la hype, c'est la tendance du moment, le jeu de pli.
Ouais. Et donc, ben, Potage sauvage, c'est un jeu de pli qu'on appelle Must Follow en anglais, où on doit suivre à la couleur demandée. Mais la petite subtilité, c'est que plutôt que de faire un tour de table, comme c'est souvent le cas dans les jeux de pli, c'est pas le seul à faire ça, mais c'est quand même très fréquemment le cas qu'on fasse un tour de table et que quelqu'un gagne le pli. Là, la différence, c'est qu'on va jouer des cartes jusqu'à ce que le pli atteigne une certaine valeur, en l'occurrence 10, et on va additionner petit à petit les valeurs qui vont être jouées. Donc si tu joues un 2, tu vas dire 2, moi je vais jouer un 3, on va dire 5, parce que 2 plus 3, si vous êtes fort en maths, ça fait 5. Et dès que quelqu'un atteint 10, pouf, la personne qui a atteint 10 prend le pli immédiatement, hein, on finit pas le tour. Donc ça, c'est déjà un truc assez important dans le jeu. C'est un jeu qui fonctionne en termes de manches, en 5 manches, qui vont être identiques, mais où à chaque début de manche, après avoir pris connaissance de sa main, on va choisir un contrat qu'on simultanément tous et toutes autour de la table, qu'on va révéler, et ça va déterminer ce qui va nous rapporter des points, ce qui va nous en faire perdre. Ça va être ben, le rouge, donc les pommes, ça va me faire gagner des points, mais les bottes, le gris, ça va m'en faire perdre. Souvent le gris, ça en fait perdre hein, dans presque tous les contrats, sauf un, et souvent il y a une couleur qui rapporte du positif, sachant que quand je dis du positif, c'est un point par carte, un 9, enfin il n'y a pas de 9, mais un 5 rouge rapporte autant qu'un un rouge. L'important, c'est vraiment juste la couleur. Sachant que, bah, comme on le choisit en simultané, il est tout à fait possible qu'on choisisse le même contrat et que ça a une importance en termes de sensation de jeu, vous le verrez. À ça, vous rajoutez quelques cartes spéciales. Ben, je parlais des bots. Alors les bots, je reviendrai dessus parce que c'est un jeu sans atout, à proprement parler. Mais les bots, on sait que en fait, quand elles sont jouées, elles transforment le pli, elles transforment la dynamique, le paradigme un peu du pli. Ça se transforme en May Follow, en fait. Donc ça, c'est quand on a le droit de suivre, mais qu'on fait comme on veut, comme dans, par exemple, Shamans, ou dans le rôle de l'imposteur dans Inside Job, si je dis pas de bêtises. À suivi potentiel, à suivi possible, à suivi éventuel, je sais pas, il faudrait qu'on arrive à traduire les trucs comme ça.
Suivi non obligatoire. Ouais.
C'est ça. Et du coup, bon, pour le coup, donc on est... Au niveau de la thématique, dont on essaye de faire une soupe et de mettre des ingrédients qui nous plaisent dans la soupe. Voilà. La soupe primordiale, pour faire référence à un autre jeu qu'on a joué en début de semaine.
Ouais, ça n'a pas grand-chose à voir.
Non, pas du tout. Et les bottes, ben, ça pourrit le potage.
Ah ouais, c'est dégueulasse.
C'est pas très bon. Et du coup, thématiquement, ça explique que derrière, ben, on puisse jouer ce qu'on veut. Parce que, de toute façon, le potage,
foutu,
il est foutu, donc maintenant, allons-y. C'est assez important quand même, et c'est amusant, parce que c'est assez rare, pour le coup, qu'il y ait un changement de paradigme à ce point dans un jeu de pli. Il y a le Schnapson qui fait ça, mais le Schnapson, c'est ritualisé sur un moment précis, un moment de rupture, et qui est déterminé par le jeu plus que par les joueurs ou joueuses, alors que là, bon, c'est aussi déterminé par le jeu, parce que une botte, tu peux que la jouer si tu ne peux pas suivre,
quand même,
si tu engages à la botte. Mais le rythme est un peu différent du Schnapson où c'est vraiment, bah, t'as fini une partie du jeu, pouf, tu passes à la deuxième partie. Mais déjà, ça, c'est quelque chose d'assez assez intéressant. Du côté des cartes spéciales, il y a aussi des épices, bon, voilà, qui valent zéro. Et il y a une carte par couleur qui est, plutôt que de rajouter une valeur, ça retourne à zéro. Donc on avait beau être à 8, pouf, même au retour à zéro, pouf, on est à nouveau à zéro, et la prochaine carte, repart de zéro. C'est des cartes importantes. Hein, si vous devez compter les cartes, comptez celles-ci.
Ouais, c'est ça. C'est celles-là qui vont mettre du sel au jeu, en fait.
Ouais, permettre de relancer des tours et tout. C'est ça qui fait un peu rire les... dans les chaumières du potage sauvage. Donc, pour faire simple, je trouve que c'est un jeu qui m'avait un peu tapé dans l'œil parce que le principe de base, en fait, je trouve que c'est assez original pour un jeu de pli. Le fait de rajouter les cartes, mais que c'est pas vraiment la carte la plus forte à la couleur qui gagne, ce genre de truc, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de rencontrer. Et du coup, il y a ce sentiment un peu bizarre de jouer un jeu de pli quand même, parce qu'il y a ce côté de « Ah bah tu joues du rouge, donc si j'ai du rouge, je dois le jouer, sinon je peux jouer ce que je veux. » Mais en même temps, il y a quand même un sentiment de pas tout à fait jouer un jeu de pli.
Ouais, presque un peu jeu d'escalade finalement, ou de tu vois, dans le feeling au final.
Ouais. Et c'est rien que ça déjà, c'est assez cool. Alors c'est pas unique à Potage Sauvage, mais peut-être qu'à l'époque ça l'était, je sais pas. Mais ouais, c'est ça donne un feeling qui est différent. On se dit ah tiens, bonne idée. C'est je sais pas d'où il est allé chercher, sûrement quelque part. Mais que ça change complètement en fait le rythme du jeu de pli, hein, et notamment ça donne de l'enjeu en fait à chacune des poses de cartes, là où des fois les jeux de pli sont un peu en automatique et puis il y a des habitudes, ça permet de donner un peu d'enjeu.
En termes de dynamique, finalement ça fait un petit peu comme du Perudo, tu vois.
Ah oui, je vois, oui.
Ouais. Où tu montes, à un moment tu vas redescendre et puis ça s'arrête sur une condition, quoi.
Ouais.
Un peu.
Ou même des jeux de défaut à la Uno, entre guillemets, où quand tu peux pas jouer, tu sais, je sais plus comment ça marche dans le Uno, mais où tu, les jeux où tu dois récupérer les cartes une fois que tu peux plus jouer, des jeux d'escalade assez simples, simplistes même, et où t'as pas envie de ne plus pouvoir jouer, alors c'est un peu différent. Là, t'as envie de prendre le pli en général quand t'essayes de le prendre, mais, ou pas, mais en tout cas, ça peut être bien de le prendre, alors que dans ces jeux-là, en général, c'est pas le cas. Et donc, on est plus dans un jeu... Alors, les jeux de pli, il y en a vraiment de toutes sortes. Hein. Il y a Niette qui est assez brain. Tu parleras de Cat in the Box, qui a aussi ses particularités. Là, je trouve qu'on est vraiment dans le jeu de pli. Alors, il a indiqué à partir de 8 ans. C'est vraiment le sentiment du jeu de pli très convivial, où tu tapes le carton, où c'est un jeu de pli où, tu sais, il y en a No Kosu Dice, typiquement. Tu vas être là, et, alors parfois, tu vas chouiner un peu, mais tu es quand même plus à regarder ce que font les autres. Essayer de calculer, c'est des jeux assez studieux, là où Potage Sauvage, pas du tout, quoi. Et c'est ça qui lui donne aussi son identité, ça va chouiner beaucoup, à dire « Eh non, mais tu me fais encore ça !» C'est aussi facilité par le game design en lui-même, qui est assez, assez méchant. On va chambrer, et aussi, et ça je trouve ça super, on va beaucoup discuter, et notamment faire parfois des espèces d'alliances, en se disant « Ah bah vas-y, si je fais ça, puis que tu fais ça, ça va le forcer à le prendre et ça l'arrange vraiment pas. » Sauf que parfois, ces alliances, en fait, c'est verbalisé, mais derrière, c'est pas le cas, parce que il lui dit « Vas-y, joue ça, et puis je monterai jusqu'à 9. » Mais sauf que derrière, t'as une épice, donc en fait, ça fait 0. Enfin, plein de petits trucs comme ça, et qui donnent de la vie, en fait, autour de la table, je trouve. Et ça crée vraiment une interaction assez forte, qui est facilitée par le système de jeu, mais aussi par... par les relations autour de la table, en fait. Alors, il y aura peut-être des parties où ce sera plus silencieux si les gens s'ennuient. Hein. Moi, je jouais avec des gens qui n'aiment pas trop les jeux de pli. Et on s'est ennuyés, on était 4, pourtant c'est une bonne config. Hein. Mais ça n'a pas marché parce que, eux, c'est pas leur truc, quoi. Et donc, c'était pas une bonne partie du tout. Faut savoir aussi que ce côté vocal et où on parle, je trouve que le fait de jouer sur les valeurs, ça, on a tendance à dire 2, 6, 8, en fait, on parle. Et ça facilite le fait de vocaliser des choses. Et du coup, il y a presque une espèce de mise en scène parce que tu sais, quand tu poses une certaine carte, selon comment tu vas prononcer la valeur, ça n'a pas le même sens. Et là, tu dis 9 et tu regardes l'autre bien dans les yeux. Parce que s'il monte à 10, alors si tu fais ça en général, c'est parce que dans le pli, il y a des valeurs que ton voisin de gauche ne veut pas prendre. Et tu dis 9 et tu le regardes en souriant et derrière lui, il met une petite épice en te retournant le sourire ou un retour à 0. Ouais, ça crée vraiment de la vie autour de la table. Moi, je trouve que c'est vraiment m'a marqué.
C'est ce que j'en retiens aussi le plus dans le jeu. Hein. C'est beaucoup de choses très malines qui vont vraiment faire émerger autour de la table Ouais, un vrai plaisir de jeu, de la taquinerie, de la discussion, de ces espèces de petites alliances aussi, tu vois, qui vont se créer parfois. Tu vas commencer à dire bon bah voilà, là il faudrait qu'on arrive à charger cargo parce que là il commence quand même à avoir beaucoup. Donc il y a vraiment ce côté, allez, il faut qu'on arrive à se liguer pour lui foutre pour lui filer de la merde. Et puis juste derrière, ça va changer, ça
mais
va
sauf
tourner,
que
quoi.
Des fois tu dis ça, mais ton espoir c'est que tu vois que le pli il est intéressant pour toi et c'est que ça revienne jusqu'à toi pour marquer plein de points. Donc en fait tu fais comme si tu voulais charger cargo, mais en fait c'est que tu veux ramasser plein de points. Et ce qui est fort aussi, je le disais, c'est que c'est un jeu de pli où il y a des enjeux quasiment à chaque carte que tu vas poser. Parce que tu te poses vraiment des questions sur alors des fois tu te poses pas la question parce que si c'est la dernière carte que t'as de la couleur, bah tu la joues, t'as pas le choix. Donc dans ce cas-là, c'est voilà, pas spécialement compliqué ou t'as pas de choix. Mais je trouve que la plupart du temps, t'es vraiment des choix vraiment forts qui sont issus à la fois des contrats, de la règle du seuil. Est-ce que par rapport à ça, est-ce que je pense que lui va pouvoir aller à 10 et que ça l'arrange, ou bien si je le mets, est-ce qu'il va juste pouvoir augmenter la totalité pour que le suivant se les prenne alors que ça l'arrange pas? Et même dans des jeux vraiment plus complexes, il y a beaucoup de moments dans les jeux de pli où c'est très automatique et où la phase de pli pour moi n'est vraiment pas très intéressante. Et où, en fait, ça va être les moments du twist ou les moments de ce qui va faire du jeu de pli sa spécificité qui vont être rigolos. Mais où, sinon, on est en mode automatique. Je parlais du Schnapsen, je trouve que c'est un jeu qui arrive brillamment, pour plein de raisons, à mettre de l'enjeu quasiment à chaque carte que tu poses. Et je trouve que celui-là, il arrive aussi. Et c'est suffisant. Parce que, par exemple, je parlais de Niet, plutôt de Stéphane Dora, que je trouve super. Mmh. Et ce que j'adore dans Niet, moi, c'est la détermination des règles. Après, la phase de pli, une fois que tu connais les règles, c'est un peu moins mon truc. C'est bien, j'aime bien les jeux de pli, donc ça va. Mais tu joues souvent de manière un peu automatique et évidente, un peu, tu sais, comme pour parler d'un jeu qui n'est pas un jeu de pli, mais comme dans Parade, où il y a un moment, tu vois ton truc, tu dis, je fais ça, évidemment, voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez spécifique à Potage Sauvage et qui est permis, effectivement, par plein de trucs.
Ouais, mais c'est ça, mais je trouve que c'est la spécificité de tous ces... ces jeux que je qualifie toujours les petits jeux de cartes allemands, tu vois, parce qu'en fait je sais pas comment les définir autrement, c'est des jeux de cartes qui vont avoir une petite idée mécanique parfois toute bête, mais qui vont réussir à twister, finalement on va se raccrocher à pas grand chose. Typiquement, enfin c'est ce qui prend, c'est je pense que c'est le fer de lance de cette catégorie de jeu, si on peut appeler ça une catégorie de jeu. Et c'est ce petit jeu allemand que je cherche tous les ans, tu vois, quand je vais à Essen, je m'attends à trouver le petit jeu de cartes allemand malin, et ça finalement ça en fait partie. Alors en même temps, effectivement, il y a des dynamiques de jeu de pli dedans. Mais c'est pas complètement un jeu de pli, et c'est pour ça que moi finalement je raccroche à ces catégories de jeux là où y a vraiment un truc malin, et c'est malin parce que ça te donne vraiment, de comme tu dis, de l'enjeu en fait à chaque carte que tu joues.
Ouais.
Alors peut-être pas à chaque carte, mais
typiquement
le fait qu'on ait des contrats,
et
le fait qu'on ait des contrats différents, ça fait que même si il y a toujours cette sensation de taper le carton et de pouvoir jouer assez vite, en fait il faut que tu fasses attention quand même tout le temps. Mais alors si je mets ça pour emmerder mon voisin de gauche, mais si ça se trouve ça va arranger celui d'après, c'est pas si ça se trouve c'est l'autre il veut des rouges,
et
je suis en train de lui mettre des rouges, ou je vais le balancer des bottes en pensant pourrir effectivement mon voisin de gauche, sauf que si ça passe et que mon voisin de gauche il s'en fout, c'est peut-être le suivant qui justement sur le contrat avec les bots là qui font gagner des points. Donc il y a toujours ce truc là, cette espèce d'équilibre tout le temps à doser,
t'essaies de créer en plus avec les autres, tu vois, en disant mais si je mets une botte, mais une épuise, comme ça au moins il n'aura pas les points, ce genre de truc quoi. Ouais, même s'il arrive effectivement que plusieurs personnes aient le même contrat. Alors pour l'anecdote, avec Carago, on a fait donc 5 manches, les 3 premières, on a choisi tous les deux le même contrat et j'étais à sa droite. Et ça donne d'autres dynamiques en fait, mais c'est pas inintéressant non plus, parce que du coup t'as l'impression soit de couper l'herbe sous le pied, soit de forcer l'autre à monter, mais en même temps à prendre des trucs qui sont pas bien, et ça donne d'autres dynamiques qui sont assez cool. Et ouais, comme tu l'as dit, c'est vrai que il y a aussi Romy Rami, là, que j'ai découvert sur BGA, et que je trouve, qui est donc le jeu publié par Randolph, qui arrive aussi avec... En fait, ils arrivent à mettre suffisamment de choses pour donner de l'enjeu à des jeux qui paraissent pas en avoir. Et c'est ça qui est super, en fait, moi, que j'adore dans les jeux de cartes, c'est ce petit truc, et il n'y a pas besoin que ce soit d'une profondeur, d'une complexité folle, tu vois, des fois, on parle des jeux de 3 heures où vraiment on veut te donner du choix et tout. Il n'y a pas besoin d'un truc fou, en fait, faut juste que les trucs soient au bon endroit et au bon dosage, pour te dire, ah, mais là, si je fais ça, ça a telle conséquence. Mais tu analyses vite dans ce genre de jeu. Mais t'es quand même là à devoir les calculer, entre guillemets, et les envisager. Et c'est tout ce qui te donne, en fait, le fait d'être pris par le jeu, d'être captivé par le jeu, d'être pas en mode... Alors, c'est un jeu quand même où tu peux parler de ta vie et tout, mais beaucoup moins que d'autres jeux que je considère plus comme des accompagnements de discussion que vraiment comme des jeux où justement, il y a de l'enjeu. Là, tu l'as dit, mais il y a, par exemple, sur un pli, ben, tu vas souvent calculer le différentiel de points. Tu vas te dire, là, si je joue ma couleur, je gagne un point. Alors, c'est pas beaucoup, mais au moins, je gagne un point. Ouais. Ou bien, il y a juste, bon, ben, ça fera zéro, mais au moins, ça empêchera le suivant de le prendre. Et moi, ça me fait pas perdre de points. Il m'est arrivé aussi de prendre des risques en te disant, vas-y, là, je vais marquer beaucoup et tout. Et en fait, t'arrives à mettre, si t'as le contrat rouge, à mettre 5-6 cartes, ce qui est pas mal, hein, 5-6 points. Et finalement, tu te dis, c'est bon, là, je vais le finir, ça va faire encore un tour et tout, et je vais marquer 7 points d'un coup, et ça va être super. Et juste avant que tu le prends, et du coup, bah, t'aurais peut-être dû mettre fin au pli avant. Donc, voilà, et tu sais, parce que t'as relancé avec le zéro en te disant, oh, ça va bien refaire un tour. Bah, pas forcément. Donc, en fait, mine de rien, ça permet plein de petites stratégies différentes qui donnent des émotions différentes. En fait, tu peux ça va, tu vois, le côté stop ou encore un petit peu, prise de risque. Tu peux la jouer safe. Ou la jouer plutôt risquée. Tu peux la jouer plus pour toi, mais tu peux clairement la jouer contre les autres. C'est un jeu vraiment méchant, enfin qui peut devenir vraiment méchant. En tout cas, il le favorise pas mal.
Ça avait été très méchant avec moi, je le confirme.
Ouais. Mais je trouve quand même que c'est un truc cool, c'est que tu l'acceptes. Enfin, en tout cas, je sais pas si tu l'as accepté, si tu nous as pardonné depuis. Mais le format du jeu fait que tu l'acceptes assez facilement parce qu'en fait, c'est ce que les Anglais, les Américains appellent swingy. Donc, c'est des jeux où il est tout à fait possible d'avoir des gros écarts de score à la fois pendant une manche et à la fois pendant la partie.
Sur la partie.
Et où tu vas avoir des gens, alors c'est rare de finir finalement dans le négatif, de toute façon c'est impossible. On peut finir des manches dans le négatif, mais pas la partie. Mais en tout cas, ça peut être du ouais, j'ai 5 et toi t'as 25. Et il y a des jeux où c'est gênant, tu vois, parce que tu te dis, ouais, mais en fait, le style de jeu, l'ergonomie du jeu, la dynamique du jeu, ça devrait pas, ça correspond pas à ce genre d'écart.
Ouais, des jeux dans lesquels t'es dans une dynamique vraiment de lose-lose, alors que là, en fait, finalement, tu te marres quand même malgré tout, quoi.
Tu passes de toute façon un bon moment.
Ah, c'est pas possible, c'est improbable, quoi. Et en fait, si le truc il te revient en négatif, quoi. Tu l'esquives deux fois et finalement, tu te le bouffes quand même, quoi.
Ouais, parce que des fois, il y a un vrai suspense, du coup. Parce que t'es là et tu vois, bon, surtout à moins de joueurs ou joueuses, mais à trois, t'es là et tu te dis, bon, ça va bien finir par tomber. Et il y a un côté où il y a une tension qui monte un peu jusqu'à ce que tu puisses plus remonter à zéro ou passer, et tu te dis, bon, allez, c'est bon, donnez-moi ça, tant pis pour moi. Mais ouais, je trouve que c'est quand même assez... Et Close Guys, dans Ebus, il y a aussi ce côté-là où le scoring global est claqué, vraiment plus claqué que dans Potage Sauvage, je trouve, et plus problématique. Mais en fait, chacune des manches est suffisamment rigolote pour que tu passes de toute façon un bon moment, quoi. Alors, il y a quelques petites subtilités, alors... On les découvre normalement assez vite. C'est pas moi qui j'en ai découvert aucune, mais normalement, voilà. Mais il y a un petit côté un peu Eureka, tu sais, quand tu te rends compte de... Ah, mais ça fait ça, parce que du coup, le 10, qui est donc la valeur maîtresse, on pourrait dire, bon, bah, ok, je joue mon 10, et puis j'ai mon point, je voulais du bleu, je joue mon 10 bleu, haha, j'ai un point. Bah non, parce que si tu joues le 10 en ouverture, il compte comme 0. Et donc, il y a un contrat spécifique qui est assez dur, qui est on te donne 5 points et après tu perds un point par 4. Donc on rentre dans la dynamique, dans le paradigme de ce qu'on appelle le trick avoidance, donc l'esquive de pli, où on essaye de n'en prendre aucun, c'est typiquement la dame de pique. Et ben, si on a un 10 en main, on va se dire, oh là là, c'est chaud, mais si on a le 10 en main et qu'on est la première personne à mener, et ben en fait c'est vachement malin, parce que du coup tu joues ton 10, tu t'en débarrasses, et ça vaut zéro. Et finalement, t'as dégagé ta carte qui était maîtresse. Et alors, c'est un tout petit truc. Hein. Moi, c'est vrai que j'y ai pas pensé en amont, mais j'ai vu quelqu'un faire ça une fois. Il fait, ah, c'est vrai, on peut faire ça. C'est malin. Et j'aime bien les jeux où, comme ça, il y a des petits Eureka où tu te dis... Pareil, normalement, vous vous en rendrez vite compte, mais ce fameux contrat où on peut perdre des points plus que dans les autres potentiellement, bah, si on joue au tout début de la partie, finalement, on ne peut que perdre 10 points. Alors, normalement, en général, on perd quand même pas 10 points. Il arrive qu'on perde 7,
ouais,
8, 9.
Des fois, t'en perds 12.
Des fois, mais ça reste rare. Dites-nous vos pires manches. Mais du coup, c'est vrai que le jouer en ouverture, ce contrat, tu te dis, bon, bah, je m'en suis débarrassé, et puis voilà. Donc voilà, ouais, moi, c'est vraiment un jeu que je trouve, en termes de dynamique, de sensations, vraiment cool, vraiment assez unique quand même. Il a vraiment ses spécificités, alors qu'il a l'air de rien, et l'explication, c'est hyper rapide, l'accessibilité, elle est là, parce qu'il suffit de savoir compter des plus 1, plus 2, alors, pour un peu stratégiser... Stratégiser, ça existe ce mot, je ne sais pas. Faire une stratégie à plusieurs tours en se disant ah bah, ça va retomber dessus et tout, et jouer de manière interactive, ça demande peut-être un peu de pratique, mais ouais, avec un truc aussi con, quoi. Moi j'adore les jeux où t'as l'impression qu'il n'y a rien et que c'est à la partie où tu te rends compte qu'il y a tout, quoi. Mmh. Et je trouve ça trop cool, quoi.
Ouais, je sais pas si tu veux.
Ouais, t'avais... ça rajoutait quelque chose sur les sensations.
Non, mais c'est vrai que t'en avais parlé sur ton retour de PL. Bon, moi j'avais pas l'impression que ça avait l'air dingue. Bon, et là tu nous l'as ramené, tu m'as dit que tu voulais en faire un jeu du mois, etc. Je dis, ouais, bon, ok, on va essayer, quoi. Et moi j'en retiens vraiment le fun, quoi. C'est vraiment c'est ce qui met le plus en avant, tout en étant vraiment malin, quoi. C'est-à-dire que t'as, comme tu l'as dit très bien, t'as des choix, t'as l'impression quand même d'avoir un peu de prise dans la partie,
tu peux emmerder les autres.
Et ouais, il se passe vraiment des trucs autour de la table, quoi. Ça discute, ça se chambre, ça rigole, ça s'allie, ça se trahit, ça...
c'est ça.
Tout ça en très peu de temps, et... ouais, non, très très chouette.
Alors juste sur les configurations, on sait que dans les jeux de pli, c'est quelque chose d'assez important, alors dans tous les jeux, hein, mais dans les jeux de pli spécifiquement, je trouve. Il y a vraiment quelque chose où il y a des jeux qui sont géniaux dans une configuration et complètement ratés dans une autre, dans ce genre de jeu.
Et là déjà, si je me rappelle bien, tu as dit que c'était jouable de 2 à 5.
Ah bah ouais, 2, ça c'est les éditeurs. Alors c'était déjà le cas à l'époque,
jeux
en 2002.
Fun, c'est rarement fun.
Ouais, bah ouais, parce qu'en fait les jeux de pli à 2, c'est souvent plus calculatoire. Alors moi, les jeux de pli à 2, j'aime bien quand il y a de l'inconnu, donc quand tu retires des cartes et tout. Parce que sinon, en fait, c'est du pur calculatoire, parce que tu sais ta main, tu sais celle de l'autre, et c'est pas drôle. Là, c'est pas le cas. Je trouve que, ouais, je pense que l'idéal, c'est 4. Parce que à 5, le tour est peut-être un peu long, et du coup, il arriverait fréquemment qu'en fait... Alors, c'est rigolo quand ça arrive, mais souvent, ça fait pas le tour de table complet. Alors, ça empêche pas d'avoir de l'enjeu quand tu joues, mais pour des stratégies où tu te dis, vas-y, je vais jouer ça, ça va me revenir, et je vais empocher le pactole... C'est plus rare, ça marche, mais je suis un peu moins fan, alors qu'à 4, je trouve que c'est le bon équilibre. À 2, j'ai joué à 2 plusieurs fois avec ma compagne. Faut savoir que l'éditeur, je reparle de PEL, mais je donne toujours cette anecdote, je l'ai sûrement dit dans les briefs, mais j'attendais des potes qui jouaient à un match pour aller faire autre chose, et du coup, on m'alpague sur le stand de Yellow en disant « Ah, vous voulez pas jouer à Potage Sauvage et tout ?» En festival comme ça, en plus on devait jouer ensemble et tout, après je dis bon non, pas forcément, et puis je vois que vous avez déjà du monde, je savais pas que c'était un jeu de pli, hein, évidemment, sinon je me serais jeté, mais et donc ils me disent ah oui mais ils sont 3 et bon c'est quand même mieux d'être à 4, et je regarde la boîte et je dis mais c'est de 2 à 5
pourquoi
et vous me dites que déjà à 3 c'est pas idéal, mais alors pourquoi, enfin si à 3 c'est pas idéal, à 2 ça va être nul, et vous le savez parce que sur votre stand vous me dites ouais, ce serait bien qu'on soit 4, et c'est pas parce que vous voulez me faire découvrir le jeu, hein. Donc bon, ouais, ça c'est les manœuvres d'éditeur, hein. C'est toujours les mêmes histoires. Alors c'est un jeu qui était déjà de 2 à 5 à l'époque, hein, mais un éditeur peut travailler ça. Cocktail Games a enlevé la configuration à 2 de trio par exemple.
Et donc, ou prévoir une vraie variante, quoi.
Ou prévoir une variante.
Comme on a essayé il y a pas très longtemps Linko, là, qui finalement, croyais pas trop, mais la variante à deux, elle est solide quand même, en vrai.
Ouais, c'est parce que c'est pensé différemment, il y a un autre système, ouais, etc.
C'est un petit peu différent au niveau du feeling, mais ça marche quand même très bien.
Et du coup, à 2-3, alors, c'est le même jeu, sauf que, on retire plein de cartes.
Sauf que c'est pas bien.
Bah ouais, en fait le problème c'est que ouais, à 3, ce qui est rigolo c'est que cette tension elle monte encore plus vite, parce que du coup ça peut facilement revenir à toi, donc tu peux faire ces prévisions là de se dire ah ben là ça va tomber, etc. Sauf que ce côté plus calculatoire que t'as normalement à 2 ou 3, qui peut-être parle plus aux gens qu'un jeu où tu tapes le carton et où tu te marres et où tu fais des crasses, bah en fait le jeu enlève ce qui permettrait que ce soit calculatoire, puisque à 2 tu utilises 26 cartes sur les 52, donc la moitié des cartes. Et à 3, t'en utilises 39 sur les 52. Ça fait... Alors, moi, j'aime bien, comme dit, hein, les cartes qu'on retire dans les jeux à 2 ou 3, parce que sinon, j'ai l'impression que j'aime pas quand c'est calculatoire, quand on peut tout compter. Là, ça fait beaucoup de cartes retirées. On peut enlever complètement une couleur complète, des cartes essentielles. Et en fait, du coup, les enjeux dont je parlais, ils disparaissent un petit peu, parce que... même si... alors, moi, je compte pas. J'arrive pas à compter de toute façon et j'aime pas ça. Mais tu vois, je disais, tu peux quand même compter quelques cartes, les 10 qui sont tombés, les retours à zéro, des trucs comme ça. Bah, en fait, et ça, ça compte dans les choix que tu fais. Même si tu comptes pas tout. Bah là, finalement, tu l'as plus tellement, quoi. Donc c'est un peu dommage de ce point de vue-là. Et il y a un autre jeu de Knizia qui est Meo, qui est pas très connu, qui est un jeu de pli plutôt enfant, qui a un peu les mêmes faiblesses. Si tu joues à deux, il y a tellement de trucs qui sont retirés que t'es là et tu te dis, bof. Je crois qu'en plus, dans Meo, du coup, tu retires des couleurs et c'est pas très intéressant. C'est le problème des jeux de pli qui valent.
Mais de toute façon, après à 3, honnêtement, ça allait quand même. Hein.
Oui, tu rigoles quand même. C'est... La dynamique est différente.
Je me suis bouffé le moins 12, mais bon. À 2, évidemment que t'as plus ces interactions autour de la table, quoi. T'as plus ce côté, on va s'allier, on va chambrer, tu vois, et le truc qui va, ça va tourner, ça va être d'autres ensuite qui vont me chambrer, etc. Donc, ouais. tu perds ce qui est pour moi la partie la plus intéressante du jeu, quasiment. Ah ouais.
Ben, pareil, ouais, j'y ai joué, comme dit, pas mal de fois. C'est pas mal, toujours en fait, pour découvrir le système de jeu avant d'y jouer à plus, disons. Après, c'est pas si pire. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment nul. Alors, tu perds tout ce que tu disais. Par contre, le système de jeu avec son histoire de montée et tout, et de contrat, reste intéressant comme système. C'est pas la configuration dans laquelle je jouerais, clairement. Et l'éditeur le sait, encore une fois, ça le prouve avec l'histoire de PEL. Voilà pour ce qui est des sensations de jeu. Juste, on va faire un petit sort sur le grand jeu, mais en héritier, il y a American Bookshop de Taiki Shinzawa qui reprend vraiment ce système, sauf que lui, il le mélange avec un pli classique, c'est-à-dire que tu vas faire un tour de table, et en fait, si tu atteins une certaine valeur qui dépend du nombre de joueurs ou joueuses avant la fin du pli, ça met fin au pli directement. Tout ça pour des histoires de majorité sur les couleurs. Mais en tout cas, ça reprend ce système de escalade et de. Voilà. Et je pense que le système de seuil, parce que c'est ça, hein, c'est un seuil en fait qu'on atteint. Il y en a sûrement plein, pas forcément dans les plis. Y a plein en fait de jeux où dans les stops ou encore faut éviter X cartes de la même couleur ou faut éviter d'atteindre tant de couleurs, sachant que là c'est un seuil que tu essayes d'éviter, alors que dans Potage Sauvage c'est un seuil qui lorsqu'il est atteint tu récupères, donc c'est pas la même dynamique. Mais dites-moi dans les commentaires, je pense que ça existe dans pas mal de genres de jeux ce truc de seuil, j'imagine en tout cas, je sais pas toi si t'as un truc qui te vient, mais c'est le truc où si tu le prépares pas en avance, de toute façon.
Ouais, non, mais comme, enfin, c'est ce que je disais, c'est qu'au final, c'est qu'à moitié un jeu de pli, et du coup, je pense que ça nous viendrait peut-être plus en regardant sur des jeux qu'on considère pas comme étant des jeux de pli, tu vois.
Plus des jeux de cartes, ouais.
Ouais.
Ouais, donc voilà, après quand même un point sur tout ce qui est matériel et édition, parce que j'ai parlé du fait déjà qu'il le gardait à deux. Je trouve que l'édition, c'est une honte. La boîte, elle est deux fois trop grande. C'est-à-dire que les cartes tiennent dans un milieu, dans une moitié de la boîte réelle. Alors, c'est bien de montrer la belle illustration de Jérémy Fleury, mais bon.
Oui, mais voilà. c'est une gamme, Flavien. Il faut que ça soit joli dans tes étagères fait, après, tu vois.
Qu'il fasse
les boîtes,
une gamme de taille de paquet de 52 cartes. Je vais parler d'autres jeux vite fait. Enemy Anemone, Trick Riders, plein de petits jeux de cartes qui effectivement n'ont pas une visée commerciale comme peut l'avoir Yellow. Ben, ça tient dans un paquet de type 52 cartes. On n'a pas besoin d'une taille comme ça. Vraiment pas. Et alors évidemment, la justification c'est oui, mais il y a les jetons points, donc en fait, il fallait bien un petit espace pour les mettre. Ouais, on est en 2023, les amis. En 2023, on peut faire autrement. On a soit des feuilles et des crayons, on a des téléphones pour prendre des scores. Alors c'est peut-être moins lisible. C'est vrai que du coup, quand on joue, on regarde quand même les points où on a un peu chacun justement pour pourrir ou quoi. Faire une boîte de cette taille-là avec la moitié de vide juste pour ça, oh, franchement non quoi. J'ai dit que c'était fabriqué en Chine. Alors, j'ai dit que aussi Yellow, c'était une version internationale, que c'est vraiment Yellow qui le fait dans d'autres pays, notamment sous le nom de Foodie Forest. Mais la boîte que j'ai, moi, de Potage Sauvage, c'est pas une version internationale, elle s'appelle Potage Sauvage. Et les règles, elles sont en français, je sais pas, des règles, plusieurs langues. Ça veut dire que c'est pas la même production. Enfin, il doit y avoir des éléments communs. Mais du coup, ce côté un peu de... Oui, ben en fait, c'est parce que d'un point de vue local, effectivement, si on le produisait en Europe, ce serait local pour la France, mais pour les États-Unis, ce serait pas ouf. Qui peut s'entendre, bah ça marche pas. Enfin, ça marche que dans le cas où effectivement c'est un truc entièrement international. Donc bon.
En tout cas, c'est un argument qui a des limites. Hein. Bon après, ouais. Après, je pense que sincèrement, il y a malgré tout une économie d'échelle de dire, bah je vais faire le tirage des boîtes françaises et en anglais en même temps dans la même usine.
Au même endroit. Ouais. Bah oui, chez What bon, Games, hein, donc, voilà. Usine bien connue. Et encore une fois, c'est que des cartes. Ah ouais. Enfin, potentiellement, si t'enlèves les jetons, c'est que des cartes. Je sais qu'il y a des entreprises qui ont fermé et tout, et que c'est un peu chiant en Europe, mais des cartes, je pense qu'on peut faire autrement quand on n'a qu'un jeu de cartes. Du côté des problèmes d'édition, les contrats, donc il y a 5 contrats par joueur ou joueuse, les dos sont tous les mêmes, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a aucun truc qui différencie
c'est clair.
Selon... C'est chiant parce qu'en fait, du coup, quand tu ranges... faut faire attention du coup de prendre bien les 5 contrats différents ensemble et de pas les mélanger et tout. Alors que,
si ça se trouve, c'est un problème dans l'assemblage des boîtes. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont 5 tu vois, qui ont 5 autres contrats d'une autre couleur. Hein.
Peut-être, mais franchement, ouais, enfin, en 2023, c'est quand même pas très compliqué de faire un dos de boîte un peu coloré et c'est quelque chose qu'on trouve souvent là-dedans, quoi. Enfin bon, ça je comprends pas, quoi. Après, effectivement, tu dois sortir 10 jeux par semaine, peut-être que tu penses pas à tout. Faut quand même dire que sur les contrats, les effets, les points que tu gagnes et tout, c'est un peu plus clair que dans l'édition de 2022. Bravo. Confesseur nous a montré, effectivement, c'était plus un petit icône, mais il y avait rien qui indiquait que c'était du négatif.
Ouais.
Pareil, dans les trucs un peu évidents, la personne qui mène, elle tourne. On fait 5 manches, alors y a chaque personne va être meneuse ou meneur une fois. Ok, il n'y a rien qui symbolise ça, et quand même, une main complète, c'est 13 cartes ou 10 si on joue à 5, c'est pas immédiat, donc en fait, il n'y a rien qui symbolise la personne qui mène. Donc, alors c'est pas énorme, mais il faut se rappeler quand même de qui a mené au tour précédent. Moi, vous savez que j'ai mauvaise mémoire, donc tu peux oublier, c'est pas essentiel. Mais dans la boîte, vous avez mis plein de trucs pas essentiels. Et pourquoi vous mettez pas juste, par exemple, une carte lead player ou...
si t'avais su, t'aurais gardé le punchboard vide hein, pour faire pour matérialiser.
Non, mais ouais, ça, c'est des choses qui m'énervent parce que ouais. Même dans les éditions artisanales...
Tu prends un smartphone que tu tapes un gros 1 en gros dessus et comme ça, tu te rappelles.
Et je fais tourner le smartphone comme ça, c'est vite que je le regarde pendant. Mais non, mais même des éditions plus artisanales et tout, enfin, n'importe qui pense à ça. Les visuels de Jérémy Fleury, moi, c'est pas mon truc. Celles de 2002 avaient leur charme. Alors, évidemment, elles sont plus adaptées au public actuel. C'est très, tu sais, dans cette optique rondouillard avec des petits animaux. Ça colle à la thématique. Bon, voilà, je trouve pas ça très identifié en termes de visuel. Après, on est dans du jeu de plis, je le pardonne. Il y a des jeux de plis très, très, très beaux, qui ont une très, très forte identité. C'est pas forcément le cas de Potage Sauvage, je trouve. Donc, voilà, du côté de l'édition. Du côté des variantes, il y a une variante officielle. Une seule, qui me paraît pas très intéressante, personnellement, vu la dynamique du jeu et ce qu'il propose en termes de sensations, c'est que les contrats, au lieu de les choisir en simultané, je suis premier, donc je choisis mon contrat, je le révèle. Ok, allez, à toi, à ma gauche. Du coup, en fait, tu prends en compte les contrats des autres et tout, et je pense que ça devient super, super chiant, quoi. Enfin, ça casse le rythme. Bon, voilà.
Ouais, c'est pour ceux qui râleraient.
Je suis pas sûr que ça change grand chose au résultat en plus, parce que c'est tellement le bordel que voilà. Il y a aussi le fait que j'ai dit, pour moi, 30 minutes, non, c'est plus dans les 45, en tout cas, 5, plus 45, 50, peut-être, bon, à 2, mais je ne veux pas à 2. Moi, je mettrais que 4 manches au lieu de 5, sauf peut-être à 5, où du coup, chaque personne mène une fois. Mais pourquoi ? Parce que le cœur de jeu, les sentiments de jeu, ce seront les mêmes avec une manche de moins, mais ça peut éviter, parce que vous l'avez compris, vous avez 5 contrats, et chaque contrat, vous pourrez le réaliser qu'une fois dans la partie. Et ben là, ça veut dire que le dernier contrat, en fait, tu n'as pas le choix. T'as aucun choix, tu fais avec ta main et ton contrat. Ce qui peut être rigolo. Mais ce qui peut potentiellement, alors je pense que c'est assez rare, être méga punitif. Parce que si t'as la mauvaise main avec le mauvais contrat, ben, d'un coup tu peux prendre plein de points négatifs alors que tu y es absolument pour rien. Donc ça, pour le coup, je pense que ça peut être frustrant. J'ai pas encore joué avec 4 manches, pour l'instant j'ai toujours joué avec les vraies règles. Mais je pense que je jouerais plutôt avec 4 manches parce que je trouve que le jeu, en termes de durée, enlever une manche, ça va pas changer grand chose et que ça évitera ce truc-là qui peut être
frustrant. Tu vas gagner 10 minutes comme l'air de rien parce qu'effectivement on est à 40-50 minutes dans les parties qu'on a faites. Je comprends ton point. Ça me choquerait pas effectivement d'enlever la cinquième manche, mais ça me choque pas non plus qu'elle soit là parce que, encore une fois, moi je considère que c'est un jeu qui est vraiment orienté fun et du coup je me dis bah voilà pourquoi pas cette dernière manche où t'as ce côté un peu fatalité où tu fais merde j'ai plein de cartes rouges et puis il te reste le truc avec les pour faire des plis bleus tu vois quoi.
Ouais.
Pourquoi pas,
faites comme vous voulez, vous pouvez en tout cas voilà. Et une dernière variante qu'on n'a pas essayé encore mais où je me posais la question, on en a un peu discuté, pourquoi pas en équipe à 4, à 2 contre 2.
Ouais, c'est vrai que ça doit pouvoir marcher
et ça doit être super cool parce que du coup les dynamiques en question, il y a vraiment l'alliance. Mais il y a aussi le fait de préparer le coup de ton partenaire et tout. J'essaierai. Je pense que ça peut vraiment être rigolo en termes de dynamique, que ça peut très bien s'y prêter et sans changer aucune règle. Et où tu rassembles les cartes et où les contrats... Alors, soit tu fais un contrat par équipe, soit tu fais chaque joueur ou joueuse qui a son contrat et tu fais le cumul. c'est pas proposé par la règle. Alors que, tu vois, enfin, c'est... nous, on n'est pas développeurs. Et tu vois, c'est un truc qui vient vite. À quel point est-ce que le jeu, finalement, Yellow le développe et a le temps de le travailler pour se dire, ah, il y a un jeu de 2002, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait partir les deux joueurs ou joueuses? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une variante en équipe?
Ouais. Voilà. Alors là, il y a deux réponses à ça. Déjà, il y a un, c'est Yellow, je ne suis pas sûr qu'il soit très... enfin, à une époque, je pense qu'ils auraient été très critiques sur ces aspects-là. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Et deux, Ragnar Knizia.
Oui, ça c'est bien possible.
Ouais. Et alors, Ragnar Knizia, son jeu, c'est Potage Trouvage. Potage Trouvage, c'est le jeu de 2002. Il se joue 2 à 5 joueurs. La règle, c'est celle-là. Et basta. Si vous voulez pas ça, et ben, vous allez voir ailleurs. Ou alors, dans ce cas-là, on crée un nouveau jeu. Il aurait une autre référence, un autre nom, je sais pas quoi, parce que c'est comme ça qu'il marche, quoi.
Prends l'argument Ragnar Knizia. si, par contre, du coup, on se place du point de vue de Yellow et du développement du jeu en interne, même si c'est des localisations et de, et ben, tout simplement, ils ont beau avoir du monde, en fait, sortir 10 jeux par semaine, c'est difficile de prendre du temps pour penser à des choses pertinentes.
Alors, c'est pas 10 jeux par semaine, c'est beaucoup trop quand même. C'est genre 10 par mois, ou je sais pas, c'est vraiment beaucoup
trop.
Ouais,
c'est de toute façon beaucoup trop. Et là, je fais le lien avec ce que je disais lors des jeux du mode Trio. Cocktail Game sort beaucoup moins de jeux. Trio, ils ont retiré le mode de joueur. Alors, peut-être que c'est Kayami Yano, je crois, l'auteur de Nana. Il est peut-être moins chiant que Ragnar Knizia. Rigide.
C'est même sûr. Hein.
Oui, je pense.
Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup plus chiants qu'en Ragnar Knizia sur ces aspects-là.
Ils ont retiré le mode de joueur. Ils ont créé un mode par équipe qui apporte énormément au jeu.
Non, c'est clair.
Donc, en fait, c'est de l'édition. Hein. C'est à un moment, c'est pas juste de la production. C'est aussi essayer de réfléchir à « Ouais, ce jeu-là, il était en 2002, qu'est-ce qu'on peut lui apporter ?» et tout. En tout cas, voilà. Donc, si vous essayez en équipe, dites-nous en commentaire. Moi, je sais que j'essaierai, je pense. N'hésitez pas. Donc, voilà. Moi, je trouve l'édition un peu ratée, quand même. Encore une fois, le jeu est super. C'est un peu l'éditeur qui vient affaiblir mon plaisir, malheureusement. Mais en tout cas, c'est vraiment les parties que j'ai faites. Ça confirme les bonnes impressions que j'avais eues à PEL. Ou c'est ce que je disais comme anecdote. En général, quand on te retient sur un stand, t'es pas ravi parce que c'est pour un jeu pas ouf et tout et que personne veut jouer. Ah là, c'est vrai que je me suis retourné et on m'a dit, ah bah c'est un jeu de pli de Ragnar Knizia. Oh. Et je dis, ah mais c'est un inédit Knizia. On me dit, oui. Alors après, je dis, en fait, non, c'est un jeu de 2002.
Ouais, tu nous as bien eu aussi pour les jeux du mois, du coup. Hein. Bravo.
Je vous ai fait la même qu'on m'a fait. Hein. À la défense de Yellow, c'était une animatrice. Je ne vois pas que c'était un personnel de Yellow. Donc voilà, elle peut tout à fait ne pas savoir que c'était un jeu de 2002.
Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est une nouveauté de Yellow. Voilà.
Je pense pas que ce soit un must-have en jeu de pli, un des meilleurs jeux de pli qui soit jamais... Enfin, déjà, on est à la limite du jeu de pli, on l'a dit. Ça va être moins marquant en termes de public et de importance dans le genre qu'un The Crew ou peut-être que Cat in the Box en termes de juste twist. Voilà, des jeux à twist qui sont... Où tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça, un jeu coopératif de pli? Même si The Crew n'était pas le premier, c'est vrai qu'on n'en a pas vu beaucoup avant et que celui-là, vraiment, enfin, voilà... je trouve que c'est vraiment super pour un peu tout le monde, un public assez large, des assez jeunes, avec quand même quelques originalités, quelques sensations qui sont spécifiques à Potage Sauvage. Oubliez pas que ça peut devenir assez méchant. Le jeu, je pense, favorise l'interaction et la méchanceté, le fait de pourrir quelqu'un. C'est parce que vous aimez, faites gaffe, parce que je pense que le jeu, enfin, faut le prendre comme il est, en fait, dans sa dynamique et dans ce qu'il a comme game design. Alors, si c'est un game design qui vous plaît pas et que vous voyez ça comme super punitif, c'est peut-être pas le jeu pour vous, quoi. Mais de manière générale, je disais, c'est un jeu de 2002 et je suis vraiment content, moi, que ce soit un vieux jeu comme ça qui revienne sur le devant de la scène. Alors, c'est pas mis en avant le fait qu'il soit 2002 hein, dans la com. Peut-être d'ailleurs que les gens de la com le savent pas non plus. Cette année, on a eu Fauna, alors qui est un peu plus récent, il y a eu Expédition autour du monde, et tout ça, ça ressort, en fait. Et c'est là où tu te dis, waouh, c'est toujours trop bien, quoi. Et ça garde le même impact, et c'est toujours pertinent en 2023, il y a ce côté un peu... c'est pas démodé comme un Catan ou quoi. Dans un monde où, effectivement, un monde du jeu de société, où il y a une surproduction des nouveautés qui, vraiment, souvent... on souffle beaucoup, quoi. On se dit, est-ce que ça valait le coup? je préfère, moi, une démarche, effectivement, même si ça a ses limites, hein, mais où, en termes de créativité, mais où on ressort des trucs qui ont fait leurs preuves, qui sont toujours intéressantes. C'est vous savez la vieille maxime des vieux pots dans lesquels on fait les meilleures soupes. C'est pas toujours vrai, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il faut quand même donner un peu d'éclat au pot, parce que c'est vrai que le pot à l'époque il était un peu dégueulasse. C'était le public de 2023 fait peut-être un peu moins confiance à une marmite un peu dégueulasse comme l'édition de 2002.
C'est sûr, c'est sûr. Ouais,
mais
faut
en tout cas, ouais.
Un peu la mariée, comme on dit, quoi. Mais,
c'est ça, la marmite en l'occurrence. Rabillon la marmite. Mais ouais, moi, Potage Sauvage, en tout cas, sans aucun doute, c'est une belle découverte de 2023. Sans doute pas mon jeu de l'année ou quoi, mais j'y jouerai avec plaisir et je pense qu'il va rester dans ma ludothèque sans aucun souci un bon bout de temps et que je le ressortirai avec plaisir, quoi.
C'est bien.
Et du coup, donc, c'est un jeu de Rainer Knizia, le fameux qui embête un peu les éditeurs, peut-être. illustré par Jérémy Fleury, édité par Yellow. De 2 à 5 personnes, mais jouez-y surtout à partir de 3, et je pense que 4, c'est vraiment l'idéal, comme pas mal de jeux de pli. Il y a beaucoup de jeux de pli où c'est 4 et 5 uniquement, ou 3 et 4. À partir de 8 ans, ils disent 30 minutes, comptez plutôt 45 minutes si vous jouez dans les bonnes configs. 15,90€, donc un prix... honnête, qui correspond à la taille de la boîte, n'est-ce pas? chez notre camarade, bien sûr, nous savons que les camarades, chez notre sponsor, qui sont aussi nos camarades, la caverne du gobelin, et donc c'est fabriqué en Chine, même si ça aurait pu être juste un jeu de cartes fabriqué. Cartamundi est mort, je crois, mais en Pologne ou que sais-je. Donc,
ouais, ils sont délocalisés, quoi, mais ouais.
Donc voilà. Voilà donc pour Potage Sauvage.
Merci Flavien.
Eh ben, je te propose que, pour changer un peu du jeu de pli, qui n'est pas vraiment un jeu de pli, on parle d'un jeu de pli.
Ouais, on va parler d'un jeu de pli. Encore! Oh là là, mais quel tu es machiavélique, c'est incroyable. Eh ben, donc, on va parler de Cat in the Box. Alors, Cat in the Box, c'est un jeu de Muneyuki Yokushi. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. J'invite les gens à venir me corriger et m'insulter.
C'est peut-être aussi Yokuchi, Muneyuki, tu sais, chez les Japonais, on ne sait jamais dans quel sens les mettre. Parce qu'ils ont une façon de mettre le nom avant le prénom, je crois.
Ouais, bah oui, parce que sur certains jeux, effectivement, c'est inversé. Donc, je ne sais pas. Voilà. Le jeu est illustré par Ozumu Inoue. Alors, c'est pareil, du coup, hein, mettez-le dans le sens que vous voulez. Le jeu a été édité à l'origine chez Obi Japan, puis chez Bezier Games. Alors, en réalité, Cat in the Box, c'est Obi Japan. Cat in the Box Deluxe Edition, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle en vrai, c'est Bezier Games.
Ouais.
Voilà. Et donc chez Matago, donc on a la localisation en français de Cat in the Box Deluxe Edition. Et donc ça, c'est un jeu qui est jouable de 2 à 5 joueurs et joueuses. Hein. On est dans la même configuration que Potage Sauvage. Les parties sont annoncées de 20 à 40 minutes. Et le jeu est fabriqué en Chine lui aussi. Et le jeu est disponible à 25,90€ chez notre partenaire, la Caverne du Gobelin. Donc, Cat in the Box, on vous en a déjà parlé, effectivement. Tu l'as bien fait remarquer, Flavien, c'est vrai. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. C'est un jeu qu'on a découvert en Ison l'année dernière, en 2022, donc à la même époque. C'est un jeu qui a bien buzzé, Ison. Je crois qu'il était sold out le premier jour. Moi, j'en ai entendu parler, je crois, genre le jour même. On m'a dit, oui, est-ce que tu peux me ramener un Cat in the Box? Et du coup, j'en ai ramené pour une amie. C'était Catherine, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. C'était 4 pions de 3. Et je m'en suis acheté un exemplaire. Et quand le mec il m'a annoncé le tarif, j'ai cru m'étouffer un peu. C'était quand même 40€ la boîte.
Ouais.
Je crois que j'en ai acheté 3 ce coup-là. J'ai tenté de négocier le tarif. Ça se fait, ça résonne. Non.
120 balles, bim.
Il avait bien raison, puisque de toute façon, il a tout vendu le jour même. Donc,
Pour l'anecdote, comme pour Nokosu Dice, moi j'avais vu des vidéos en anglais en amont, et c'est un truc qui a beaucoup buzzé en amont du côté anglophone en fait. Et du coup, c'est pas très étonnant que les gens étaient au taquet.
Ouais, c'est pour ça. Ouais. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un jeu de plis, on l'a dit, dans lequel l'objectif va être de faire le plus de plis, mais pas que. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a 4 couleurs dans le jeu. Et chacun son tour, on va jouer une carte, et une fois que tout le monde a joué sa carte, on remballe le pli, on regarde qui a joué la plus forte valeur, et donc celui qui a joué la plus forte valeur va remporter le pli, si il a effectivement suivi à la couleur qui était demandée au tout départ, à moins que quelqu'un ait joué l'atout, et dans ce cas-là, c'est celui qui a coupé avec le plus gros atout qui va l'emporter. Bref, quand je vous dis ça, vous dites, c'est ultra classique, c'est un jeu de pli tout bête, c'est la belote.
Sachant que c'est un jeu de pli où l'atout ne peut pas être joué en ouverture avant que quelqu'un ait coupé à l'atout.
Ah, mais tu t'es en train de tout spoiler, là.
Pardon. Vas-y.
Tu as raison, c'est une des particularités du jeu. C'est qu'en fait, on ne connaît pas l'atout tant qu'il n'a pas été joué en tant que tel. C'est ça, la règle. C'est-à-dire que la thématique du jeu, c'est le chat Schrödinger. Donc, c'est typiquement là, en fait, on sait pas trop l'atout. on sait pas quelle couleur est la couleur d'Atou. Alors qu'en réalité, ce qui est complètement débile, c'est que, bah, en fait, on le sait, puisqu'on a un plateau sous les yeux qui nous dit l'Atou c'est le rouge, et puis en dessous il y a les autres couleurs. Donc, mais il y a ce petit côté, voilà, un peu, je te présente le jeu en te disant, ah bah l'Atou, tu vois, tu le connais pas tant qu'il a pas été joué en tant qu'Atou. Et là, tu vas le découvrir. Et à partir de là, effectivement, tu vas pouvoir le jouer en tant qu'Atou et même lancer l'Atou, quoi.
Et c'est quelque chose d'assez fréquent, hein, pour citer un classique américain, Atou-Pic. Atou-Pic fait ça, par exemple, où t'as pas le droit de jouer à pic avant que quelqu'un ait été obligé de couper à pic.
Ouais. Ouais, c'est pour éviter un peu ce truc qu'on voit typiquement à la belote, où bah, quand t'as pris la couleur d'Atou, tu vas faire tomber les Atous direct, quoi. J'imagine que c'est un petit peu ça l'idée. Bon, alors donc, hein, je vous dis, ouais, c'est un truc qui a l'air ultra classique. On va essayer d'aller vers les twists du jeu, hein. Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que avant de démarrer la manche, on va jouer autant de manches qu'il y a de joueurs, en fait, autour de la table. Il va déjà falloir faire un pari initial, c'est-à-dire qu'on va dire « je pense que je vais remporter tant de plis ». Sauf que déjà, là, on est limité dans le nombre de dans l'annonce qu'on peut faire. C'est-à-dire que en fonction du nombre de joueurs, je crois que c'est à 4 ou 5, ouais. On peut annoncer soit un pli gagné, soit deux plis, soit trois plis. Donc si on pense pouvoir en gagner 4, et ben en fait, on peut pas faire cette annonce là.
Et on peut pas faire 0, ce qui est quelque chose de très fréquent dans les jeux de plis, le shoot the moon.
On peut pas faire 0 aussi, effectivement. Donc ça, bah, c'est complètement, principe du whist, hein, si je dis pas de bêtises, hein, dans lequel on fait une annonce comme ça.
Bah, c'est le principe de beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux de plis, hein,
les paris. Ouais, bien sûr, mais peut-être le plus connu, j'imagine que c'est le whist. Et en version éditée, c'est Skull King.
Sachant que moi, j'aime beaucoup ça, parce qu'en fait, dans des jeux de plis, j'ai dit parfois c'est un peu plan-plan. Ça permet de mettre de l'enjeu et d'apporter de la décision à ta main, en fait. Tu vois ta main et du coup, tu prends une décision déjà par rapport à ça.
Il va falloir analyser et essayer de voilà,
plutôt que de juste...
Ouais, tu te fixes toi-même ton objectif et tu essaies de l'atteindre, effectivement.
Plutôt que de juste, je gagne un point par pli, quoi.
Ouais. Mais effectivement, du coup, je vous ai dit, oui, on gagne autant de points qu'on gagne de plis, mais en même temps, on fait le pari. Donc, à quoi ça sert de faire ce pari, hein, n'est-ce pas, Flavien?
Bah ouais, à quoi ça sert de faire ce pari?
Voilà. Et bah donc, on arrive sur une des premières originalités du jeu, c'est que on va devoir se placer sur une grille. Alors, comment on se place sur une grille? Et bah, c'est simple. Si je joue le 2 rouge, et bah, je me place sur le 2 rouge. Voilà. Mais ce que je n'ai pas encore dit, c'est que les cartes dans votre main, en fait, elles ont pas de couleur. C'est-à-dire que je vais peut-être avoir 3-2 dans ma main, et en fait, peut-être qu'il est rouge, peut-être qu'il est bleu, peut-être qu'il est jaune, peut-être qu'il est vert. Ça, je vais le décider au moment où je vais le jouer. Et donc, si quelqu'un a lancé 4 verts, et donc je suis censé suivre un vert, et je peux effectivement mettre mon 2 et dire c'est un 2 vert, voilà.
Crois-moi.
J'ai suivi à la couleur, j'ai respecté la règle.
Et ça, comment tu le montres alors? Comment tu sais qu'il a pas déjà été joué ce 2 vert?
Et c'est justement, tu vas placer un jeton sur une grille sur laquelle t'as toutes les valeurs et toutes les couleurs. Et donc tu dis, voilà, le 2 vert, il a été joué, c'est moi qui l'ai joué. Donc sachez que vos 2, ils ne peuvent pas être verts. Puisque chaque carte n'existe qu'en un seul exemplaire, évidemment.
Ce serait paradoxal quand même.
Ce serait paradoxal, hein, de trouver un autre 2 vert, c'est pas possible. Dans les jeux de cartes traditionnels, il n'y a pas deux fois les mêmes, sauf si vous avez mélangé deux paquets. C'est pas le cas dans Cat in the Box. Et donc, en jouant nos cartes comme ça, on va placer des jetons sur un plateau, et l'idée c'est d'essayer de placer ces jetons de façon adjacente. Donc on commence à être guidé d'un côté par le nombre de plis qu'on veut faire, par les positions qu'on va prendre sur le plateau, parce que ces positions-là, à la fin de la manche, on va regarder si on a réussi notre pari, on va regarder le nombre de jetons qu'on a adjacents sur ce fameux plateau central, et ça va nous donner un nombre de points. C'est-à-dire que si j'ai réussi à mettre 4 jetons adjacents sur ce plateau, et que j'ai réussi à faire un pli, et que j'avais parié un pli, je vais marquer 4 points bonus. C'est-à-dire que je marque un point pour mon pari, enfin pour mon pli que j'ai réalisé, en fait. J'ai réalisé un pli, donc ça fait un point. Et je vais marquer 4 points de bonus. Donc on voit quand même qu'il y a un fort intérêt sur le placement, quand même. Hein, c'est,
clairement. Ouais. Parce que tu as un point par pli de base, donc même si tu fais pas ton pari, mais que tu as parié un, mais que tu fais 3 plis, tu vas gagner 3 points, ce qui est pas mal.
Ouais.
Mais le pari est vraiment... Enfin, réussir son pari, c'est pas... c'est assez important et... Ce que tu disais, c'est le fait de... Ça valorise, en fait, une autre mécanique de jeu, quoi.
Ouais, complètement. Alors du coup, ce qu'on peut dire quand même, c'est que pour continuer un peu sur les blagues, on est quand même devant un jeu qui s'assure déjà d'être adapté pour les gauchers, hein, on peut le dire, mais c'est aussi et surtout un jeu qui est garanti 100% daltonien friendly du coup, parce que toutes tes cartes sont noires quand même, hein, même si elles sont de couleur, n'est-ce pas?
Du coup, il y a juste le plateau qui ne l'est pas forcément, quoi. Mais...
Ouais, mais le plateau, tu t'en fous, les couleurs, elles sont dans les
lignes.
Oui,
oui, oui. Il y a une hiérarchie en plus.
C'est le placement, donc on s'en fout, en fait, en vrai. Et voilà. Et ça, c'est un des premiers éléments, quand même, notables dans le jeu. C'est que, il y a cette idée, un concept fort, comme dirait Pionfesseur, c'est que c'est un jeu qui est une blague, en fait, à lui tout seul, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment la blague d'expert des jeux de plis. Parce que t'es vraiment dans une configuration où, alors, on n'est pas dans une dynamique fun comme dans Potage Sauvage. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas en train de taper les cartons, etc.
C'est de l'humour d'esthète.
Mais
c'est de l'humour
d'esthète. C'est ça, exactement. C'est de l'humour d'expert, quoi. C'est, tu sais, t'es dans une réunion avec des informaticiens et ils font des blagues. Voilà, ils font des blagues d'informaticiens que tu comprends pas. Et ben là, si tu joues à un jeu de plis pour la première fois et que tu joues à
Bon courage
à Cat in the Box avec des gens qui sont des amateurs de jeux de plis et tout ça, bah ouais, bon courage, comme tu dis, quoi. Tu vas pas comprendre, mais les blagues fusent, en fait, quoi. C'est vraiment t'es en mode je lance du verre, bon, tu sais, c'est le deuxième tour en verre, là tu es en train de réfléchir. En fait, tu sais que de toute façon, il a des cartes pour jouer vert. Je veux dire, on vient juste de faire un tour. Il a plein de cartes dans sa main. Tu vois, et là, il fait. Puis il coupe.
J'ai pas de vert.
Tu vois. Et c'est que des conneries comme ça, quoi. C'est que des conneries comme ça tout le long de la partie. Et là, c'est vraiment. Enfin, pour le coup, c'est vraiment le jeu qui te crée ça, quoi. Et ton bagage de joueur ou de joueuse qui. Le jeu de pli, toi tu lui réponds, mais t'es sûr que t'as pas de verre, quoi. Ah, et là tu fais, ah non, j'ai pas de verre, vraiment. Là je suis désolé, je suis obligé de couper, là. Hein.
Et il y a un truc, c'est qu'effectivement, c'est pas un jeu fun comme Potage Sauvage, tu le disais, mais c'est un jeu drôle.
Oui.
C'est-à-dire que moi, c'est un jeu qui, quand je l'ai découvert, donc après Essen, je sais plus comment je l'avais récupéré. Je l'ai fait venir, je crois, des États-Unis, donc moi j'ai en plus payé l'impôt et tout. Complètement fou. C'est vers le début du vraiment ma passion pour le jeu de pli depuis quelques mois, etc. Je me dis, ah, ça a l'air incontournable, ça a l'air rigolo. Il y a un vrai concept fort, comme tu l'as dit, hein. Au-delà du placement, il y a ce côté de les cartes qui n'ont pas de couleur. Vas-y, go. Et avant d'y jouer, j'y ai joué finalement il y a assez peu de temps. Je crois que ma première partie c'était au Weekend Proxy jeu de cette année. Mais en fait, je fais ça des fois, tu sais, pour découvrir un jeu, je simule une partie à plusieurs, ce qui n'est pas facile dans les jeux de plis. Mais ça permet de se rendre. Et en fait, en jouant tout seul et en simulant une partie à 3 ou 4, j'ai rigolé, quoi. Et c'est là que tu te dis, waouh, c'est fort, parce qu'en fait, tu rigoles parce que t'es là et tu te dis, vas-y, ah, il joue vert, machin, je vais jouer du 2 vert. Ah, mais non, c'est pas possible, il a déjà été joué et tout, et tu vois. Et en fait, tout seul devant ma table, en train de simuler, ça m'a fait marrer, quoi.
C'est ça, tu trouves le truc, il y a un côté à la fois grotesque, à la fois tu dis mais c'est absolument génial comme idée, quoi.
Mais c'est ça, comment, et le c'est mec, rare les jeux dire... drôles, quoi. Les jeux drôles dans leur idée même, qui te font vraiment rire par juste l'application de la mécanique, c'est assez rare, quoi.
T'as des moments où t'as l'impression que t'es en train de jouer un air jeu de pli, tu vois, quoi. Ouais. C'est limite, en fait, tu fais semblant de jouer à un jeu de pli.
Alors moi j'ai une idée de proto comme ça où tu annonces tes couleurs et tes valeurs, où tu fais vraiment, t'as pas de carte mais tu fais comme si.
Ah oui, d'accord, ok.
Mais je l'ai jamais mis. Voilà.
T'es allé au bout du truc, quoi, vraiment, du hard jeu. Et tu te demandes d'où est sortie l'idée, quoi.
Ouais, carrément, ouais.
Et au-delà de ces aspects de blague, le jeu est vraiment très malin. C'est-à-dire que ce pari de départ, Gotha, qui te limite en fait dans le. En fait, comme il te limite en nombre de plis, c'est-à-dire même si tu as une main forte avec tous les 9 dedans, en fait, tu pourras pas dire, imaginons, tu as les 9 sur 8 des 8, tu peux pas dire, je vais faire 8 plis, quoi. C'est pas possible. Tu es limité de toute façon à 3. Donc, tu es obligé de te limiter et tu es obligé de jouer sur le placement. Donc, le jeu, il te contraint vraiment, il t'impose à jouer à la fois sur la force de ta main et sur la façon dont tu vas jouer, donc, enfin, tes choix, en gros, de cartes pour réaliser ton placement sur le plateau, quoi. Ce qui va aussi, l'air de rien, en fait, rééquilibrer la partie et les mains des joueurs et des joueuses. Donc ça, je trouve quand même assez malin de pas laisser tant de poids que ça au pli, quoi.
Ouais, partie de ces jeux-là qui, alors c'est le cas depuis les années au moins 90, voire avant, mais Ouais, même beaucoup avant, mais en gros, l'idée, c'est d'éviter de... Ah ben, le 1, c'est bien, et le 9, le 1, c'est nul, et le 9, c'est bien. En fait, non, parce que, pour plein de raisons, et donc, ce jeu-là fait le choix, effectivement, du placement qui... Ben, le 1, c'est bien, parce que là, ça me fait... ma zone, elle fait 5 maintenant, donc c'est 5 points, et, ouais, et j'ai plus placé. Ouais.
Ou le 1, c'est bien, parce que, bah, en fait, il faut que je me limite en nombre de plis, donc du coup, ça m'arrange quand même c'est de jouer à 1, quoi, parce que je suis sûr de pas prendre le pli avec ça. Ouais, c'est beaucoup de petites choses malignes comme ça. Bah, le positionnement, ça veut dire aussi que bah, quand on voit qu'il y en a un qui est en train de se répandre, bim, on va faire un petit coup de blocage. Donc là, il est en train de faire sa petite colonne de 4, et bah, je vais m'empresser de jouer le 4. Alors, pour deux raisons. Je vais venir sur la deuxième, parce qu'on n'a pas encore abordé un autre des points les plus importants du jeu, quand même. Bref, mais on va donc, il y a vraiment cette notion de blocage. Donc quand même, enfin, je sais pas, du blocage dans un jeu de plis, quoi.
Ouais, c'est, beaucoup d'interactions,
ouais. Ouais, c'est assez fou.
T'as l'impression de jouer à un Knizia un peu, tu sais, où tu vas, bah, Knizia, voilà. C'est les jeux un peu presque abstraits de Knizia où t'es là et c'est vraiment des zones de contrôle de territoire et où là tu te poses pour éviter que lui fasse la liaison entre ces deux zones. Donc je te bloque ici.
Ah, mais
bim,
c'est ça, ouais.
Et
ouais.
Tu le regardes méchamment. Quand bien même, toi, c'est pas ta plus grande zone, donc au-delà de ce que tu vas expliquer après, mais ça t'apporte rien en termes de points, mais juste c'est pour contrer, quoi.
Ouais, exactement, hein. Ouais. Avec le coup de rassembler deux zones, là, c'est vraiment, en général, c'est les contres les plus faciles, en fait, parce que, c'est vraiment, tu vois deux zones qui se dessinent, tu peux vraiment pas laisser rassembler ces deux zones. Et en général, deux zones, elles sont pas non plus rassemblables par deux ou trois points, donc, il suffit d'un pour venir.
Et ça là, crée aussi la discussion autour de la table, hein, parce que exactement. Tu dis, vas-y, fais-le, c'est à toi de le faire, parce que moi, j'ai pas la carte qu'il me faut, tu sais, le 4 vert.
Oui,
tu recommences sur les mains.
J'ai pas le 4 vert. Oui, c'est ça.
J'ai plus de vert, regarde, je te l'ai dit.
et donc, voilà. Et donc, on en arrive au fameux dernier point. Puisque, hein, on l'a dit, c'est le thème du chat de Schrödinger, donc on sait pas trop, il est dans la boîte, il est pas dans la boîte, on sait pas tant qu'on n'a pas ouvert la boîte. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a trop de cartes dans le jeu. Il y a 4 couleurs, mais il y a 5 cartes pour chaque valeur. Donc, il y en a une de trop dans chaque valeur. Et donc, ce qui va se passer, alors, certes, il y a un pli qu'on joue pas. Il y a une carte qu'on écarte au début aussi, et il y a la dernière carte, on la joue pas. Donc, il y a quand même des cartes qui sont virées. On sait pas lesquelles,
et ça,
déjà.
Et ça enlève de l'information. Et ça, c'est, pour moi, je l'ai dit, hein, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien quand, du coup.
Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, on va peut-être s'en retrouver coincé. C'est-à-dire que moi, il me reste encore un 4 dans ma main, et il y a plus de 4, en fait, disponibles. Parce que tous les emplacements 4 ont été pris. Et il y a les 5 qui étaient effectivement restés en jeu. Et ça, c'est très fâcheux, parce que si à un moment, je dois jouer, et que je peux ni placer donc mon 4, ni placer mon 2, admettons, hein, puisque je rappelle qu'il y a quand même une carte qui sera pas jouée de toute façon, et ben là je vais créer ce qu'on appelle un paradoxe, c'est-à-dire que ben je vais soi-disant jouer un 4 vert mais qui n'existe pas. Et oui. Puisque là on révèle, en gros on ouvre la boîte et là merde, ah c'est le problème.
C'est ça.
Et donc quand il se passe ça, déjà le pli s'arrête immédiatement, ce qui fait que parfois il y en a qui hurlent parce que c'est le pli qu'ils allaient gagner et c'était le pli dont ils avaient besoin. Et
leur pari, ouais.
Et il y en a d'autres qui éclatent de rire ou qui sont absolument heureux parce que à ce moment-là, ben les plis qu'on a marqués, ils vont être marqués en négatif au lieu d'être marqués en positif. Donc c'est un cas de figure.
Juste pour la personne qui a créé le paradoxe.
Oui, voilà, pour la personne qui a créé le paradoxe. Ouais. Donc celle-là, elle est punie. Elle a fait n'importe quoi. Elle va marquer. Si elle a marqué 3, elle avait fait 3 plis. Elle va marquer moins 3 points. Et la manche s'arrête donc immédiatement.
Et même si elle a fait 3 plis, qu'elle avait parié 3 plis. Eh ben, on comptera pas sa zone
ah,
la
oui,
plus grande.
Exactement, ouais. Tu fais bien de le préciser.
Double punition.
Et, ça peut faire vraiment très, 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 très mal, quoi. Quand t'étais super bien parti, imagine, t'es sur un 6 points, et 6 points, c'est vraiment énorme dans ce jeu. Tu prends le paradoxe, ça fait très, très mal, quoi.
Ouais. Mais c'est quand même quelque chose, là aussi, de drôle. La première fois où tu prends le paradoxe, c'est drôle.
Et oui, ouais.
T'es là et tu dis, mais
même les autres
tu
fois.
Tu peux
hein.
plus jouer. Ouais. Ouais, mais la première fois, t'es là et tu te rends compte, en fait, du truc, tu dis. Ah, mais en fait, ah, mais je peux pas jouer. Ouais, c'est et c'est ça. Là que tu dis, ah, c'est ça, en fait. Ah,
c'est donc ça le paradoxe.
Tu vois les conséquences. Ouais. Et pour le coup, ouais, ça peut, comme Potage Sauvage, être un jeu assez punitif. Donc là aussi, attention, quoi. Si vous supportez pas, effectivement, le fait de pouvoir faire du négatif, et là même de finir en négatif, voilà, c'est. Ah ouais, c'est violent. Peut...
Puis c'est vraiment la bascule, hein. C'est, tu passes du positif au négatif, donc c'est vraiment méga violent, quoi. Et ce qui est vachement cool dans ce truc-là, c'est que ça installe un vrai suspense dans la partie. Quand t'arrives sur les derniers plis, tu regardes ta main, tu regardes ce qui reste sur le plateau, là tu fais voilà, j'ai encore deux cartes à jouer, il y a trois places qui marchent, sauf que tout le monde doit encore jouer. Donc est-ce que je vais réussir à placer mes cartes? Et du coup, tu es en train de te dire, j'espère qu'il y en a un autre qui va jouer avant moi, qui va partir en paradoxe avant moi.
Ouais, ouais.
Et ça pousse parfois à certaines dynamiques qui sont d'essayer soit de reprendre la main, quand c'est possible évidemment, hein, reprendre la main pour le dernier pli.
Ouais, parce qu'on sent que cette telle place, elle va être très convoitée et que ça va être dangereux si c'est pas nous qui la prenons en premier.
Exactement, ouais. Donc en gros, il y a un moment où on est en train d'analyser son placement autour de la table et d'essayer d'être pas trop loin de celui qui va lancer, quoi. Parce que dans ce cas, ça nous donne plus de chances d'avoir encore une place sur le plateau. Et donc si on a moyen de prendre la main, bah des fois on va prendre la main. Ça peut être plus intéressant de prendre la main et de faire un pli de trop peut-être que de se taper le paradoxe.
Que de faire un paradoxe. Ah, oui. Ouais.
Donc c'est des choix qui sont donnés dans le jeu et des dynamiques qui sont vachement intéressantes.
Ouais, ça me fait penser, je parlais des must not follow, tu sais, de Potato Man,
ouais,
tout à l'heure, des trucs où t'as pas le droit de suivre la couleur, bah t'as un peu ça des fois où en fait ça dépend des must not follow, hein, ce que ça implique. Mais il y en a où ça met fin directement à la main et où le dernier pli est pas compté. Il y a aussi ce côté suspense de là j'aimerais bien le passer parce que ce pli là va me rapporter 5 points parce que je mène à jaune par exemple, peu importe. Et de se dire, ouais, j'espère qu'il va jusqu'au bout. Et quand quelqu'un va révéler sa main et dire, j'ai pas de jaune. Enfin, non, c'est, j'ai que du jaune ou bien j'ai que des couleurs qui ont déjà été jouées. Et du coup, le pli est fini. Et toi, tu allais marquer 5 points et tu ne les marques pas. Il y a un peu ça qui se retrouve le côté, dans ce paradoxe-là, le côté suspense, c'est le côté, tu regardes un peu chacun jouer, tu te dis, est-ce que ça va s'arrêter ou pas, quoi. Et ça, c'est des sensations assez cool qui peuvent être plus violentes dans les must not follow parce que selon la distribution de la main, il arrive que t'es tout simplement pas la bonne couleur dès le premier tour, mais...
Et moi, je trouve que... Enfin, je sais pas toi, mais moi, je trouve que c'est un truc qui se rapproche un peu de cette sensation que t'as dans les jeux dans lesquels il faut porter le coup fatal, quoi. Tu sais, alors, c'est pas toi qui va le porter directement, mais cette attente de... Il y en a un qui va tomber, tu vois, c'est...
C'est une épée de Damoclès, ouais.
Ouais, et puis toi, t'es là, tu joues... toi t'arrives à jouer, tu dis allez, pourvu que le prochain tombe. Alors t'es soit dans une situation où tu veux qu'il tombe justement pour pas que y en a un qui puisse remporter un pli de plus, selon ton cas de figure tu vas être dans des positions différentes, mais tu peux te retrouver dans cette situation où t'es là, t'espères que t'es en train de porter le coup de grâce et que tu vas, en plaçant ton 2 jaune là, bim, ôter la place qui restait à un de tes voisins de gauche. Ça, c'est assez drôle aussi, quoi.
Ouais, et puis c'est vrai que finalement, en fait, tu parlais du placement et tout, et du coup, le placement, c'est pas juste pour marquer les points, mais c'est très intéressant d'un point de vue de l'estimation de sa main.
Ouais, de ce qui
reste. Tu regardes
ta
main et tu... Ouais, c'est ça, et tu te dis, tiens, là, j'aurais plutôt intérêt à faire ça pour du scoring, mais là, faut vraiment que je me débarrasse de ça. Et également, c'est ça aussi qui va entraîner le fait que tu coupes ou non, parce que parfois, tu le fais assez tôt dans la partie, et quand tu coupes, donc ça veut dire que tu dis, ben, j'ai pas de vert, donc ça veut dire que tout le reste de la partie... tu te prives de jouer vert, donc ça peut être dangereux. Mais c'est en fait justement toute cette notion de paradoxe et d'essayer de contrôler, il y a une espèce de flux de jeu un peu comme ça, où tu te dis, là je le sens pas, il faut que j'arrive à aller dans ce sens-là, et donc à prendre la main, comme tu disais, en coupant, mais je me prive de ça. Et c'est vachement intéressant, ouais, moi j'aime bien les jeux, tu sais, comme dans Scout, ou dans Crash Carrier, tout quoi, ou dans Carro Combo, pardon, où tu regardes ta main et tu essayes d'estimer ce que tu vas pouvoir faire avec, et ben là, c'est tout le temps remis en cause, et t'es tout le temps en train de te dire, bah là, je me place là, mais c'est pas forcément pour si. Et du coup, les autres sont en plus en train d'analyser ça. Est-ce qu'il se passe là pour si? Est-ce qu'il se passe là pour ça? C'est vachement intéressant, en fait, comment les deux trucs se rencontrent, du coup.
Ouais, t'es vraiment dans des dilemmes comme ça, comme sur une espèce de tabouret à un pied, hein, où tu dis, bah, il faut que j'aille vers le nombre de plis, il faut genre contrôle mon placement, et en même temps faut que je contrôle que je puisse encore jouer les cartes qui me restent dans ma main, et t'es tout le temps balancé comme ça entre ces trois grands éléments du jeu. Je sais pas si j'en oublie un, mais ouais, tu sens que c'est difficile de tout concilier. À la fin, effectivement, quand t'atterris bien plat et bien droit, t'es content déjà, hein. Après, le score, c'est un peu autre chose, quoi.
C'est ça.
Moi, je suis souvent dans cette dynamique de bon, bah, je gagne pas souvent, toi, parce que déjà, quand je fais pas le paradoxe, je suis content. Donc, quand j'ai relié deux jetons, c'est déjà pas mal. Et quand j'ai fait mon objectif, du coup, bah, ça veut dire que j'ai fait au moins un ou deux plis plus de points. Bon, c'est déjà pas si mal, quoi. Et à côté de ça, effectivement, tu peux avoir des gens qui vont faire des gros scores.
Et ce qui est super, c'est qu'en fait, ça favorise aussi un jeu de prise de risque.
Ouais, complètement.
Parce que du coup, pour marquer des gros scores, à un moment, il faut prendre
c'est
des
ça.
Risques. Alors, du coup, tu peux être puni par le paradoxe, mais ça introduit de la prise de risque qui est pas forcément effectivement ce que tu mets en place quand tu dis ouf, je vais juste essayer de survivre.
Ben non. Ouais. Et c'est pas, et ça, c'est pas commun cool, de façon générale dans les jeux de plis, hein, où il y a quand même beaucoup de jeux de plis où t'es dans
risque,
t'es dans de l'assurance quand même, hein, beaucoup de jeux de plis où tu vas jouer un peu automatique. Ouais. Là, il y a une vraie prime, enfin il y a une prime potentielle à prendre des risques. Il y a aussi la punition qui va avec.
Bah c'est ça, en fait. Ouais, c'est le risk and reward, hein, toujours, hein, le risque-récompense qui est là et qui est très bien intégré.
Ouais.
Sachant que, pour l'anecdote, Dany, donc, qui était chez Proxyjeu l'année dernière, a fait une partie sans aucun paradoxe.
Ouais, alors du coup...
c'est étonnant, c'est rare.
Ouais, c'est rare, ça arrive, hein, ça peut arriver.
C'est moins drôle, a priori.
Bah, c'est moins drôle, ouais, j'avoue, c'est moins drôle.
Ça casse un peu
ouais.
le game design, quoi.
Ouais.
Mais c'est rare quand même, hein, disons-le.
C'est ça, ouais. Mais l'air de rien, ouais, ça casse un peu le game design, mais quand tu l'attends, ce paradoxe, encore une fois, toi, quand t'es dans une position où t'attends qu'il y ait un paradoxe pour que ça pète vraiment le jeu, au moins du joueur qui fait le paradoxe, et potentiellement de celui qui attend le pli. Donc c'est quand même, globalement, quand t'es dans cette position-là, tu l'attends bien, quoi. Et bah du coup, t'as aussi ce côté montagne russe de ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber, et puis oh merde, ça tombe pas, quoi.
Ouais.
Là, c'est un jeu qui propose vraiment des émotions. Tu peux passer très vite du positif au négatif. Bah, moi, j'adore ça, quoi. J'adore ça dans les jeux.
Ça provoque des émotions, du coup, en fait.
Et voilà,
c'est ça le truc.
Ça. Mais même si elle est, ce que je veux dire, c'est que même si elle est potentiellement négative, tu vois, bah,
ça valorise cool. D'autant plus le positif.
Ça reste un jeu, ouais. Bon, on peut parler un petit peu des à côté quand même. Bon, le jeu est clairement surédité, hein. On va pas se mentir.
Ah bon. T'es trop. Pire ou moins pire que Potage Sauvage?
Ah, c'est pire que Potage Sauvage quand même.
Ah ouais, quand même.
Il y a des petits jetons en acrylique pour placer sur un petit plateau qui est.
À double couche.
Ouais, qui a un système double couche. Voilà, il y a des petites cartes que tu glisses dedans. En fait, t'aurais les cartes, ça marcherait tout aussi bien. Hein, t'aurais des jetons.
C'est ce qu'il y avait dans le jeu de base.
Ça marcherait tout aussi bien. Dans le jeu d'origine japonais, ouais, je crois que c'était ça.
D'autant que les jetons là en acrylique, il y en a qui sont de couleurs proches et de formes proches. Alors,
oui,
il y a des petits symboles et tout, mais voilà, c'est bien joli de faire des trucs jolis, mais réfléchissez un tout petit peu avant.
Ah, ouais. le rose et l'orange. Ils sont tous les deux pâles.
Ils sont tous les deux circulaires, ouais.
Et en plus, oui, ils sont tous les deux circulaires, quoi. Alors que les autres, ils ont d'autres formes. Non, c'est juste pas possible. Sérieux.
Et alors, vous avez pas vu le pire, hein, parce que il a été annoncé par Bézier Games. Je sais pas si ça arrivera en France. Pitié, Matago, ne faites pas ça. Colossal Cat in the Box. Après Cat in the Box en 2020. Ouais. Après Cat in the Box Deluxe Edition en 2022. Kickstarter qui est passé, hein. Je sais pas combien il a fait, mais pour Colossal Cat in the Box, qui est une boîte.
Colossal.
Je dirais pas de format aventurier du rail, mais pas loin, peut-être moins profonde, avec un énorme chat dedans pour jeton premier joueur, j'imagine. Complètement incroyable.
T'en demandais un tout à l'heure de jeton premier joueur. Bah voilà, monsieur, voilà ce qu'il fallait pas faire, fallait pas réclamer.
Incroyable. Ah oui, il y a quand même des extensions et tout.
Il y a des trucs en plus, apparemment.
Et donc, ça a engrangé 250 000 dollars. Voilà, bravo. Bravo les gens.
Bravo le veau, comme disent l'autre.
C'est ça. Bon, après, je dis ça, je l'ai importé des États-Unis en payant l'import. Voilà.
Ouais, t'inquiète.
Je suis moi aussi un bon pigeon. Ouais. Mais j'ai pas pledgé Colossal Cat in the Box, qui était, du coup, à 60$.
Alors en plus, je sais pas pour la. Alors moi j'ai la version Basic Game. Hein. J'ai quand même demandé du coup à Dédé Chutz qui a fait l'acquisition de la version Matago. Il m'a dit effectivement que c'était le même matériel. Donc je confirme que c'est effectivement le même matériel. Qu'est-ce que je voulais dire?
Bien, je sais pas. Les règles ont l'air à peu près bien traduites, donc c'est à noter parce que c'est pas le jeu le plus simple à traduire non plus, vu le côté conceptuel du truc.
Ouais,
c'est bien d'avoir réussi.
Ouais, il y avait une discussion sur Discord, en fait j'ai revu les règles, en fait il y a pas de. Enfin, normalement, bon, après on peut toujours mal interpréter des phrases, mais en fait au final ça me paraît correct. En revanche, alors, dans ma version, et je ne sais pas du coup si c'est comme ça sur la version Matago, j'ai quand même des d'autres cartes qui n'ont pas exactement les mêmes couleurs.
Ah oui,
quoi.
C'est vrai, ouais, c'est ouf, ça.
Vraiment,
c'est le côté Deluxe, tu sais, c'est, ils ont mis deux couleurs.
Ah, tu les mets en éventail, vraiment, et t'as des cartes qui sont plus claires que les autres. Bon, du coup, bon, on n'est pas en train d'analyser quelles cartes, etc. En plus, il y en a plusieurs, donc bon, c'est pas si grave.
Ouais, mais pour les championnats du monde, ils vont faire comment?
40 balles la boîte, je l'avais payé quand même, je me rappelle. Ça fait quand même un peu mal au derrière. Ouais, voilà quoi. Bon.
Ouais. Et donc, si vous stylez vos cartes, par contre, la boîte est super chiante à fermer aussi.
Ouais, bah, il va falloir virer le thermo, je sais pas. Qui est pas très pratique en plus pour ranger les petits jetons en acrylique.
Ranger les jetons, ouais, c'est infernal.
Bon, clairement, je pense que.
C'est mignon par contre. Enfin, toi, t'es pas team chat, mais le chat est mignon.
Ouais. Bon, il est un peu cartoonesque, là, avec des gros yeux, dans un design ultra simple. Et
d'ailleurs,
ouais,
Matago a fait une version spéciale de son M, là, avec le chat.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Est tellement mignon que vous pouvez prendre une version colossale Cat in the Box à $80 au lieu de 60 avec un chat en peluche.
On peut parler peut-être vite fait de l'auteur, quand même. Parce que tu m'as présenté un autre jeu de cet auteur-là. Donc de
Muniyuki, ouais.
Qui a l'air bon, enfin moi j'ai joué qu'à deux jeux du coup, hein, mais on a l'air d'être quand même dans un mec qui part dans des délires. Il dit moi je vais aller à fond dans ce délire et je vais l'assumer à fond. Ouais. Et là on est vraiment dans ce délire de je crée un entre guillemets air jeu de pli, hein, avec vraiment le délire du le chat Schrödinger. Donc du coup on est dans bon, en fait, on a les trucs en main, mais en vrai, on sait pas exactement ce que c'est. Et tant qu'on les a pas joués, ben, on sait pas trop ce que c'est. Et à côté de ça, on a joué à...
Yo-Kai Septet, yes.
Merci. Bon, exact. Ouais, ouais. Qui est un jeu aussi qui part sur le délire du set. Avec, bah, c'est un jeu de pli aussi, hein. Le set qui a une valeur en fait plus ou moins forte selon la série dans laquelle il est. Donc en gros il y a une série qui va de 1 à 7, une série qui va de 2 à 8, etc.
Ouais, vous avez compris. Jeu centré entièrement autour du set, alors qu'il y a avant ne s'appelait pas Yo-Kai Septet, mais où il y a 7 couleurs, chacune de 7 cartes qui effectivement sont décalées, où on essaye de récupérer les 7, où il faut
marquer 7 points.
Voilà, c'est ça, où il faut marquer 7 points, où on arrête dès qu'on a la majorité des 7, donc 4 7 sur 7, et où si par contre tu fais 7 plis, et ben, il se passe un autre truc.
Ouais.
Et c'est un délire. C'est un jeu de plis très différent, parce qu'on est dans du jeu de plis en équipe avec échange de cartes et tout, donc on a un autre paradigme du jeu de plis. Mais il est aussi dans ce côté où, tu vois, dans Cat in the Box, il y a ce côté de concept très fort de... Pour moi, le concept... Alors, je sais pas si... Je pense que le concept de base, c'est faire un jeu de plis sans couleur sur les cartes. Ça pourrait être aussi de faire un jeu de plis mélangé avec du jeu
avec
de
du
placement.
On sait pas trop, ouais.
Mais il y a ce côté ultra fort et de se dire, maintenant, comment je vais faire pour habiller tout ça? Et souvent, ça donne des jeux un peu bancal, tu sais, ce genre de truc où il y a un concept super fort et où tu te dis, waouh, c'est génial, mais c'est pas terrible.
Mais là, ça, là c'est marche, en fait, en plus, quoi.
Yo-Kai Septet est très différent, alors je mettrai le lien dans le billet, mais vous pouvez jouer gratuitement sur l'application Trickster Stable, à 4 ou à 2, il y a aussi une version à 3 où c'est chacun pour soi, à 2 c'est une variante faite par un Américain qui est plutôt cool. Moi j'ai beaucoup joué, j'ai fait des dizaines et des dizaines de parties, donc je commence à m'habituer un peu, mais c'est aussi un jeu où au début c'est perturbant parce qu'il y a trop de trucs en fait, et du coup j'ai l'impression qu'il y a ce côté de l'auteur, alors il a fait beaucoup de jeux, hein, Muniyuki Yokuchi, j'ai joué à pas beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il a une vraie patte. Je dis pas ça pour le chat, mais qu'il a vraiment une identité forte, ce qui est cool, toujours cool ça, les auteurs comme ça, comme un Frieze ou un Knizia ou quoi. Bon, Knizia c'est un peu plus varié comme production. Mais ouais, j'ai joué à un autre jeu de lui qui est un jeu de collection un peu plus classique, mais qui a quand même quelque chose. Moi j'ai fait pas mal de parties là. Clairement, on n'est pas dans du Cat in the Box ni dans du Yo-Kai Septet en termes de « Ah, waouh, mais qu'est-ce qu'il est allé chercher ?» Mais il y a quand même, en termes de sensations, pas en termes de mécanique, mais en termes de sensations, il y a quand même des histoires de majorité qui se mélangent un peu à du Coloretto et tout, et qui donnent quand même un tout assez, assez cool. Il y a en plus une petite référence à Cat in the Box sur une des cartes. Bon, voilà, ça, c'est plus le côté méta. Mais, donc celui-là, voilà, me paraît quand même plus standard en termes de proposition. Mais les deux autres, ouais, alors Yo-Kai Septet... n'est pas disponible actuellement, sinon c'est chez Ninja Star que vous pouviez le trouver, qui sera peut-être réédité et tout, parce que Shut Up and Sit Down, donc énorme podcast anglophone, en a parlé, Il parle de beaucoup de jeux de pli, hein. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Enfin, ces derniers mois, ces dernières années, parce que ça revient à la mode. Et ben, quand il parle d'un jeu, en fait, surtout sur un jeu comme ça, après, c'est sold out, quoi. Inévitablement, donc, bon, voilà, compliqué à trouver. Il est aussi sur BGA, en bêta. Vous pouvez essayer, bon, ce genre de jeu sur BGA, voilà, ça a ses limites. Mais en tout cas, pour découvrir, ça peut être bien.
Bon, il faut jouer en direct, c'est super beau. Déjà, quoi. La minima.
C'est super beau. Enfin, moi, j'adore le style de Yokai, c'est peut-être. Okay. Mais un auteur à suivre, quoi.
Donc, le jeu de collection dont tu parlais, c'est Only One Collection. Hein.
Ouais, celui-là, pour le coup. Ouais. Plus compliqué à trouver, il a 40 notes sur BGG, il a pas de mode Tabletop Simulator par exemple, ce qui est quand même relativement rare, donc voilà, mais je peux le faire essayer si vous êtes au Weekend Proxy, mais pour ça, faut nous donner des sous. Incroyable, pire que BZ Games.
Quel racoleur, incroyable.
Ouais.
Voilà. Bon, il y a une variante à deux que j'ai pas essayé, ouais. Je suis pas trop tenté, j'avoue, j'ai même pas lu la règle de la variante à deux. Je sais pas si tu l'as fait, toi.
Ouais, si, j'avais essayé, moi, avec ma compagne, mais elle aime pas trop les jeux de plis, malheureusement. Potage Sauvage, elle aime bien, mais sinon, les jeux de plis plus classiques, où faut suivre, bon, faut suivre la couleur, là, faut pas forcément, mais du coup, on a juste essayé, mais on a pas fini la partie parce que juste elle accrochait pas, donc c'était.
Ah ouais, t'as même pas fini la partie, ouais.
Non. Je crois qu'il y a quand même quelques différences. À voir si c'est pas trop brain, justement, parce que c'est vrai que le côté placement, bah, à deux, c'est un peu plus du. Ou bien il y a peut-être, je sais pas, des. Je crois pas qu'il y ait des IA qui placent des trucs, mais peut-être des cubes qui sont mis au début, je sais plus. Mais, vous nous dites dans les commentaires, hein, de toute façon.
Voilà, au final, c'est un jeu quand même qui. Pour moi, il y a une vraie originalité. Il y a à la fois ce qu'on disait, hein, ce suspense de fin de manche qui est assez fun. On est sur un concept qui est complètement barré. C'est vraiment... c'est le jeu qui... on a l'impression que ça a été designé vraiment pour les fanatiques de jeux de plis, pour qu'ils puissent se faire des blagues entre eux, quoi. Et en même temps, ce côté où, bah, malgré que ce soit un jeu avec un concept de complètement barré, bah, c'est un jeu qui vraiment est hyper solide, qui tient vraiment la route, quoi, et qui propose à la fois des émotions vraiment chouettes. T'es vraiment en train de vivre les montagnes russes quand tu joues à ce jeu, et qui te propose des dilemmes tout le temps. C'est-à-dire que vraiment chaque carte que tu joues, c'est l'anticipation pour la suite. C'est pas du tout le jeu de pli dans lequel tu vas juste taper le carton et jouer en mode automatique, quoi. C'est que si tu veux espérer gagner, bah, il va falloir, comme je disais, essayer de tenir l'équilibre sur ton tabouret à un pied, entre d'un côté respecter ton pari, te placer correctement, et puis en même temps éviter
le coup près,
quoi. Survivre, c'est ça. Ouais. Exactement.
Ouais, pareil, je trouve que c'est vraiment... C'est un jeu qui peut déstabiliser justement même les experts.
Déstabiliser,
genre, parce que...
oh, joli.
Ah ouais. Non, mais parce que par exemple, il y a plein de gens qui font une partie et qui disent, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, ou si c'est juste.
Si on se moque
très
de
bien,
moi.
Ou si juste. Ouais, un peu. Ou si juste c'est un peu l'ampoule, mais en fait derrière il y a rien, tu sais. Il y a plein de jeux comme ça où tu te dis, ah ouais, c'est intéressant, mais derrière il y a rien. Et la première partie de Cat in the Box peut faire ça et. Donnez-lui plus qu'une partie, si vous vous posez la question. Moi, je trouve vraiment quoi, ça fait un peu jeu blague au début, tu vois, où genre tu te dis, comme moi des fois, j'ai des concepts de jeu de pli, je me dis, ah, ce serait drôle de faire ça. Alors en fait, ce serait drôle, il te reste en tête et tu te dis, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à en tirer, en fait, de ce truc drôle. Ouais. Et il y a plein de jeux blagues où tu as un concept fort qui finissent par être des jeux quelconques, même si c'est toujours cool d'avoir le concept fort. Celui-là, non. Celui-là, justement, il arrive à être un bon jeu quand même, malgré le fait que ça vienne d'un concept fort, d'une blague. C'est assez rare pour être remarqué. Et moi, j'avais des réserves sur le côté pari. Et également, parce que moi, ce que je kiffe dedans, alors il y a le côté pas de carte. Si tu veux, moi, le fait que j'ai joué à énormément de jeux de pli, le fait que quand j'ai fait une vraie partie, bah, j'ai été moins twisté parce qu'en fait, j'ai vu des twists tellement bizarres ici et là que c'est, ah, bah, c'est encore un twist d'un jeu japonais de plus, quoi, tu vois. Quand tu as joué à des Shinzawa ou quoi, t'es là. Shinzawa qui, lui, justement, fait des jeux qui souvent ratent dans l'absolu. Ouais. Mais qui sont trop cool à découvrir, mais qui sont pas très bons, où tu vas pas jouer autant qu'un Cat in the Box ou quoi. Donc, la découverte, je me dis, ok, c'est rigolo ton histoire de couleurs. Moi, ce que j'ai préféré, c'est le côté placement, qui n'est pas non plus inédit, hein. Il y a des jeux qui mélangent du pli et du jeu abstrait, de placement, enfin des trucs à se taper la tête contre le mur. Mais moi, je trouvais ce mélange-là plus intéressant, et du coup, l'aspect pli, notamment, allez, j'écarte une carte en début de partie, allez, je fais mes petits paris. Plus classique et quelque part un peu dispensable, mais après plusieurs parties, en fait, le placement tient que parce qu'il y a ce pari.
Bah ouais, c'est ça.
Et si t'enlèves le pari, le placement a plus de valeur. Ouais. Et je trouve que du coup, ouais, tout rentre bien en cohérence. Ouais. Et que ça fait un jeu où vraiment chaque élément est quand même nécessaire au sentiment de jeu global.
Ouais.
Et ça, je m'en suis rendu compte, tu vois, après, je me disais au début, ouais, bon, c'est rigolo. Mais il y a plein de trucs inutiles. En fait, non, je trouve pas quoi.
Ouais, j'ai eu exactement la même évolution que toi. Ouais, vraiment, je me suis dit, bah, en fait, le pari, oui, bon, c'est la contrainte pour marquer les trucs, mais ça me paraissait un peu artificiel. Et en fait, non, mais c'est ce fameux tabouret là dont je parlais. Hein. C'est, en fait, c'est ça qui fait tout l'équilibre du jeu. Enfin, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui crée vraiment tout l'équilibre du jeu et qui parvient à arriver à un jeu complètement abouti, quoi. Bon voilà, enfin bref, vous avez compris qu'on a tous les deux bien kiffé à la fois Potage Sauvage et Cat in the Box. Donc Cat in the Box, je rappelle, donc c'est un jeu de Muneyuki Yokubushi, illustré par Osumu Inoue. Ça a été édité donc à l'origine chez Obi Japan, puis Bezier Game, et aujourd'hui bah on a une localisation grâce à Matago. Et bon, on les remercie de pas avoir un tarif à 40 balles quand même aussi, en passant, l'air
ouais,
de rien. Hein.
Matago, je parlais de Yellow, mais qui est aussi pas mal actif sur les jeux de pli. Ils ont fait Saint Patrick là l'année dernière.
Ouais.
Ils vont faire Bottle Imp, dont je parlais normalement, qui est un classique de 95 aussi du jeu de pli, dans une version qui a l'air très très jolie. Ils sont aussi actifs de ce point de vue-là.
C'est eux qui ont refait aussi Jekyll et Hyde.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Tatsu.
Ouais. Ouais, très intéressant aussi. Voilà, donc c'est donc Cat in the Box, je reviens donc sur la fiche, c'est de 2 à 5 joueurs, même à 3 ça passe, hein.
À 3 tu fais 2 tours de table, je crois.
Tu fais 2
tours,
il
me semble.
Je crois pas. Je crois pas.
Peut-être pas. Peut-être
en tout cas, moi je recommanderais de 3 à 5. 20 à 40 minutes de partie, alors je sais plus trop, j'avoue, j'ai pas regardé.
Ouais,
mes,
je trouve qu'on est plus dans les 40.
Ouais, dans les 40, hein. Après ça dépend du nombre de joueurs, parce que ça conditionne le nombre de manches. Le jeu est fabriqué en Chine, évidemment, puisqu'il faut mettre des jetons en acrylique dedans, c'était très très important. Et c'est vendu à 25,90€ à la caverne du Gobelin. C'est moins cher que plus cher. Mais du coup, comme c'est des jetons en acrylique et des machins, ça fait quand même cher pour un jeu de pli. Mais bon. Honnêtement, si vous kiffez les jeux de plis,
ça les vaut.
Ouais, non, ça en vaut la peine. C'est vraiment.
Je pense que pour le coup, tu vois, celui-là, faites-le découvrir. Enfin, il a quelque chose que Potage Sauvage a pas en termes d'idées, je trouve. C'est pas le même style de, mais il me paraît plus marquant dans l'histoire du jeu de plis que Potage Sauvage, quoi.
Ouais, mais encore une fois, en plus, Potage Sauvage fait à moitié jeu de pli.
Ouais, c'est ça.
Qu'en disent les experts sur ton fameux Discord de Portland.
C'est marqué trick-taking. Hein, c'est
ils le disent, ok. Très bien. Bah, techniquement, ouais. Tu prends un pli à la fin, ouais, c'est sûr.
Donc voilà, que vous ayez aimé notre émission ou non, comme toujours, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy toujours avec un i et jeu avec un x. On est sur Twitter/X, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est aussi sur Discord où voilà, on réagit de manière un peu plus directe et immédiate forcément. Voilà, vous pouvez partager nos émissions sur les réseaux sociaux, vous pouvez parler de nous autour de vous, le bouche à oreille c'est toujours très cool. Pensez aux petits billets, hein, déjà parce qu'on a dit qu'on mettrait des trucs, moi je vous mettrai l'application où il y a plein de jeux de plis que vous connaissez pas et auxquels vous pouvez jouer, donc franchement le ratez pas. Mais dites-nous si vous avez joué en équipe à Potage Sauvage.
Ouais, ça devait essayer.
Et alors, si vous avez de l'argent, que vous achetez Cat in the Box aux États-Unis en payant l'import, qu'est-ce qu'on peut faire de cet argent plutôt Cyrus, au lieu d'être un pigeon?
Parce que là du coup, Cat in the Box c'est plus que 26€, c'est plus 40, donc vous avez 14€ de trop. Bah, vous pouvez les donner à Proxy Jeux. Voilà. Pour nous remercier, pour les émissions qu'on réalise. Vous pouvez passer pour ça par PayPal ou, nous contacter pour, accéder à notre IBAN, à notre RIB, pour pouvoir nous faire un virement.
Ah, pour ça, vous nous
contactez. Ce qui est encore mieux parce que du coup, comme ça, il n'y a pas de frais. Parce que PayPal, sinon, il se sucre sur votre dos et le nôtre
aussi,
avec.
Ouais. Voilà. Yes, et le mois prochain, nouveau jeu du mois, avec un nouveau duo, avec deux nouveaux jeux,
ouais.
J'espère que ce sera deux jeux de pli, hein. On verra, mais je crois pas, que ce soit ça.
On va voir si t'as suffisamment de pouvoir pour
ça. Et la semaine prochaine, pour le coup, un dossier sur lequel que je dois encore monter au moment où nous on enregistre, j'espère qu'il est monté au moment où c'est diffusé, peut-être, un dossier qui va parler de jeux solo. Uniquement et pas que de jeux de pli solo, même s'il y en a et qui sont bien et que j'en parle aussi dans le dossier, mais promis il y aura plein d'autres jeux Voilà, que des jeux
très
de
bien, très bien.
Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le dossier, le mois prochain pour les jeux du mois. Et en attendant,
jouez bien.